Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Nous sommes mardi 26 mai et je suis accompagné de toute l'équipe, à commencer par Maëlys Clozel. Bonjour Maëlys.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs.
Et puis évidemment Magda Dautefeuille qui est venue avec sa belle voix. Bonjour Magda.
Bonjour Alexandre.
Oh là là, c'est terrible. J'ai hâte de la suite. Bon, et puis Arnaud de l'autre côté qui remplace Franck aujourd'hui.
Exceptionnellement.
Voilà.
Voilà, c'est un honneur.
Il revient quand d'ailleurs Franck?
Dès demain.
Dès demain. Et ben voilà, donc finalement vous avez plus d'Arnaud. Profitez-en, ça durera pas. Merci chers auditeurs. Alors aujourd'hui, un programme assez chargé, intéressant, je pense. On va commencer avec Gabriel Attal. Guilherme Bédessa nous en parlera dans un instant, mais le système a trouvé son candidat maintenant que le macroniste, l'ancien Premier ministre, a déclaré sa candidature en allant à la campagne. On en parlera donc avec Guilherme Bédessa dans quelques minutes. Ensuite, à 7h25, nous parlerons du film L'Abandon. Vous savez, le film sur Samuel Paty. C'est Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie, qui lui-même a été menacé de mort pour sa lutte contre l'islamisme, qui se joindra à nous pour évoquer ce sujet. Et puis, entre autres chroniques, nous retrouverons à 8h20 Édouard Husson qui nous parlera de l'affaire Ben-Gvir avec la flottille de Gaza, la folie religieuse en Israël. Et puis enfin, nous parlerons de l'Iran à 8h57 avec Mériadec Raffray. Vous avez de la politique, de la géopolitique et bien d'autres choses. Profitez-en, mais commençons par un rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clozel.
Hier après-midi, le 44e pèlerinage de Chartres s'est achevé dans une ambiance toujours plus chaleureuse d'année en année. Plus de 20 000 pèlerins, en immense majorité jeunes, 22 ans de moyenne d'âge, ont rejoint la cathédrale Notre-Dame de Chartres après 3 jours de marche depuis Paris, sous une chaleur caniculaire. La messe de clôture a finalement été célébrée par le cardinal américain Raymond Burke. Alors que beaucoup annonçaient depuis des années le déclin du catholicisme enraciné, le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté confirme l'inverse. Une jeunesse française nombreuse, fervente, attachée au sens du sacré et décidée à transmettre. Un signal fort dans un pays trop peuplé de laïcs qui voudraient reléguer le christianisme au second plan, voire le faire disparaître. Mais heureusement, cette jeunesse enracinée a le vent en poupe. On le voit avec ces pèlerins néophytes qui assument leur amour pour le Christ et notamment pour le rite traditionnel. On écoute cette jeune pèlerine.
Alors, j'ai demandé le baptême en 2023.
2023, pardon.
Et j'ai découvert le rite extraordinaire pendant mon parcours de catéchuménat. Et effectivement, c'est un rite qui m'a beaucoup apporté, de par les moments de silence, le sens du sacré, un offertoire qui est extrêmement riche et une manière digne de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ au moment de la communion. Et tout ça m'a poussé à vraiment aller creuser du côté de la tradition. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être chef de chapitre, d'un très beau chapitre d'ailleurs, le chapitre Saint-Vendelin de la région Est, avec des pèlerins incroyables, des cadres extraordinaires. Et je rends vraiment grâce pour cela.
C'était une jeune pèlerine qui revenait sur son parcours et sa foi en direct du pèlerinage de Chartres, et un futur reportage réalisé par Benjamin de Diesbach sortira dans les prochains jours, alors restez bien à l'affût.
Voilà, et puis les disparitions de mineurs repartent fortement à la hausse en France.
Et oui, malheureusement Alexandre, selon le rapport annuel de la Fondation Droits d'Enfance, 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées aux forces de l'ordre en 2025. Cela représente pas moins de 112 enfants par jour, soit une hausse de 6,4% sur un an après plusieurs années de baisse. Dans le détail, les fugues restent ultra majoritaires avec 38 706 cas, mais ce sont surtout les disparitions dites inquiétantes qui progressent davantage, avec 1629 signalements en 2025, en hausse donc de 18,6%. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il s'agit notamment de situations où la sécurité de l'enfant est directement menacée, emprise d'un tiers, exploitation sexuelle ou encore troubles psychiques. Et pour la première fois, ces disparitions concernent majoritairement des enfants de moins de 15 ans. Hélas, on ne compte pas sur l'État pour mieux protéger nos enfants quand on voit la négligence de la mairie de Paris pour les enfants de l'ASE.
Et puis, il ne faut pas plus qu'une simple croix chrétienne pour donner des nausées à la gauche.
Bah oui, on les connaît. Dans le Gard, une association d'extrême gauche a saisi la Ligue des droits de l'homme dénonçant une prétendue atteinte à la laïcité après l'installation d'une croix en métal sur un terrain communal du village de Comps. Après une première croix en bois retirée l'an dernier, une nouvelle croix solidement fixée à la roche suscite la colère des militants antiracistes et antifascistes de Beaucaire, ville gouvernée par le RN qui évoque un mouvement identitaire catholique local. Autrement dit, des riverains non lobotomisés par la gauche. En tout cas, une pauvre croix sur une colline semble donc plus alarmer les gauchistes que les atteintes bien réelles à notre patrimoine culturel. Mais bon, puisqu'ils préfèrent le tiers-monde à la France, rien d'étonnant.
Et puis un sondage qui en dit long sur le rejet du vapotage de la part des Français.
Bah oui, totalement. Selon un sondage de OpinionWay pour la Ligue contre le cancer relayé par RMC, près de 7 Français sur 10 souhaitent interdire la cigarette électronique dans les zones non-fumeurs. L'association alerte sur la banalisation du vapotage, particulièrement chez les jeunes, et pointe des produits toujours plus attractifs. En février, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avait déjà évoqué de possibles effets cardiovasculaires, respiratoires et cancérogènes. Et aujourd'hui, plus de 8% des Français déclarent utiliser la cigarette électronique.
Pour le sport, vous dévoilez la priorité de la mairie de Paris.
Oui, alors que se tiendra la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain et Arsenal le 30 mai prochain, la ville de Paris annonce que la Tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu vendredi soir, puis scintillera samedi au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse à Budapest. En parallèle, la préfecture de police annonce un important dispositif de sécurité à Paris et en petite couronne avec restrictions dans les transports en surveillance renforcée. Et en coulisses, beaucoup redoutent déjà des débordements. Victoire ou défaite du PSG, Paris promet d'être pillé comme d'habitude et ce ne seront certainement pas les faits des supporters anglais, n'en déplaise à Gérald Darmanin.
Et puis sur la météo, nous sommes toujours en pleine vague de chaleur.
Bah oui, aujourd'hui un grand soleil et de fortes chaleurs sur l'ensemble du pays avec une vigilance orange canicule sur plusieurs départements. Côté température, nous pourrons relever ce matin 17 à Lille, 17 à Chartres et 20 à Paris. Et nous célébrons ce 26 mai Saint-Philippe-Néry, Saint-Béranger et Sainte-Anne-Marie-Paredes.
Merci beaucoup Maïlys.
Ligne droite.
Et désormais, un décryptage que j'ai hâte d'écouter, c'est celui de Magda Hautefeuille.
Chers auditeurs, derrière les belles promesses de démocratisation de l'apprentissage, un immense système de dérive, encore une fois financé par l'argent public, est en train d'apparaître au grand jour. Liquidation judiciaire du Digital Collège, redressement judiciaire de sa maison mère, le Collège de Paris, soupçons de détournement de fonds, fraude au visa étudiant. Ce qui était présenté comme une réussite de l'enseignement supérieur ressemble de plus en plus à une bulle alimentée par l'argent public. Et il faut repartir de la réforme de 2018. Emmanuel Macron avait fait de l'apprentissage une priorité absolue. Contrats facilités, aide massive aux entreprises, ouverture du marché. Jusque-là, tout va bien. Le nombre de contrats a alors quadruplé, passant de 200 000 à 800 000. Mais cette croissance a aussi créé un appel d'air énorme pour des groupes attirés par une manne financière quasi garantie. Le problème, c'est qu'une partie des établissements a fonctionné comme une machine à croissance financée par l'argent public avec communication commerciale agressive, communication massive sur les réseaux sociaux et logique d'expansion permanente. Le cas du Collège de Paris est devenu emblématique. 18 000 étudiants, 80% en apprentissage, des écoles dans des secteurs comme le luxe, le marketing ou l'informatique. Et aujourd'hui, un groupe complètement fragilisé, étranglé par sa dette. Un spécialiste du secteur parle même d'un château de cartes qui s'effondre. Et au milieu de tout cela, des accusations extrêmement graves. Selon les inspections de l'État, des fonds issus de l'apprentissage auraient été utilisés à des fins personnelles. L'ancien directeur du Digital Collège est accusé d'avoir acheté pour plus de 500 000 euros de cartes Pokémon avec l'argent des écoles, rien que ça. Son mariage aurait aussi été financé à hauteur de 49 000 euros. Mais derrière l'aspect presque grotesque de l'affaire, il y a surtout des soupçons de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et même fraude au visa étudiant avec des étudiants qui n'auraient même jamais fréquenté les cours. On a voulu alors faire exploser les chiffres de l'apprentissage très rapidement sans construire un cadre de contrôle suffisamment solide. Alors évidemment, il existe des établissements sérieux et des formations utiles, mais à côté, des structures opportunistes se sont engouffrées dans la brèche avec une logique plus financière qu'éducative. Et pendant que l'État injectait des milliards dans ce système, certains secteurs stratégiques continuaient à manquer de techniciens, d'ouvriers qualifiés ou d'ingénieurs. Former des métiers techniques coûte cher, alors ouvrir des formations tertiaires en marketing ou communication est quand même beaucoup plus rentable. Finalement, cela montre que quand l'État subventionne massivement un secteur sans contrôle suffisant, certains finissent toujours par transformer un dispositif censé former des jeunes en machine à argent financée par le contribuable.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Guilain Bénessa. Guilain Bénessa, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour, très bien. Tout va bien.
Alors, je rappelle que vous êtes docteur en droit public, que vous êtes enseignant à l'université de Strasbourg, entre autres ouvrages que vous avez écrits comme « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE » que vous avez publié récemment. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de Gabriel Attal. Pourquoi ? Parce que on a l'impression, et c'est un petit peu ce que vous me disiez pour tout dire quand on s'est caché, quand on s'est appelé hier pour préparer cet entretien, ce qu'on s'est dit au bout de quelques secondes, c'est « ça y est, on a trouvé notre prochain président ». Expliquez-nous.
Écoutez, effectivement, pour révéler les coulisses de cette émission, vous m'avez appelé effectivement pour me solliciter, pour envisager le cas de Gabriel Attal, et je vous ai dit effectivement spontanément, on a déjà le président élu, donc on connaît le nom du nouveau président de la République. Alors, évidemment, c'est un peu rapide dit comme cela, mais ça donne l'impression de l'atmosphère en fait qui se développe depuis quelques semaines. Atmosphère, je le précise, qui conditionne, qui propulse, à mon sens, deux candidats en avant depuis quelques temps, c'est-à-dire Édouard Philippe. Mais ça, c'est une sorte de candidat sur le long terme. Hein. On l'avait présenté depuis longtemps comme le successeur un peu logique d'Emmanuel Macron, mais pour plein de raisons qu'on envisage peut-être aujourd'hui ou pas. Et Gabriel Attal, qui est une sorte de baby Macron tout de même, je veux dire, qu'on le veuille ou non, lui-même le réfute partiellement dans son intervention, dans son entretien dans Brut, sur Brut, mais il n'empêche, il est le baby Macron par essence, puisque il est monté largement sous Macron, il a été ministre plusieurs fois sous Macron, il a été premier ministre très éphémère sous Macron, et il a désormais la charge de reprendre le parti de Macron, je veux dire, enfin, créé par Macron, plus ou moins en tout cas, avec l'aide de tous les autres, on connaît cette histoire. Donc, il n'empêche, Gabriel Attal a quelque chose de cette propulsion aujourd'hui à la présidence, et j'observe tout de même que, comme d'habitude, lorsque les médias ont décidé de mettre en avant un candidat, on a la salve en entier, c'est-à-dire les interventions intimes, le passage sur TF1, le passage sur les réseaux sociaux, l'invitation sur Brut. Ça fait beaucoup pour un seul homme, et surtout ça fait beaucoup pour quelqu'un qui, je le répète encore une fois d'emblée, a été au fond exclusivement un des ministres de la fin de la Hollandie et surtout de la Macronie pendant toutes ces années, alors même qu'on rêve, en tout cas que nombre de Français rêvent, de balayer le système Macron qui prévaut depuis maintenant bientôt 10 ans.
Ouais. Alors justement, Gabriel Attal, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye d'être, comme on dit, entre rupture et continuité. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je ne suis pas pareil qu'Emmanuel Macron, parce que maintenant, il y a l'IA. Et d'un autre côté, effectivement, il dit, en revanche, j'assume tout ce que j'ai fait. Étant donné que lui-même a un petit peu de mal à répondre à cette question, est-ce que pour vous, il y a des différences, justement, entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal? On sait que c'est le même système, mais est-ce qu'il y a, Attal assez spécifique dans ce système?
Alors déjà, mais bon, je pense que vos auditeurs, vos spectateurs n'ont pas, comment dire, l'ignorance, ou plutôt la vacuité de croire que les explications franchement très boiseuses du père Attal. Je dis ça volontairement parce que j'ai écouté, grâce à vous, mais je ne sais pas si je dois vous remercier ce matin pour cela, j'ai écouté partiellement, évidemment, l'entretien de Gabriel Attal sur Brut. Et qu'est-ce qu'il dit pour justifier sa différence et le fait que le monde a changé? Il donne plusieurs indications. Premièrement, vous avez raison, il parle de l'intelligence artificielle. Il dit qu'en 2017, quand Macron est élu, il n'y avait pas l'IA, d'accord, première chose. Et deuxième chose, évidemment, bon, ça, on s'y attendait, encore plus peut-être, c'est qu'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, donc il n'y avait pas le retour du tragique et de l'histoire qui balaye un peu tout en ce moment, et donc que les tensions et les dangers actuels, Emmanuel Macron n'avait pas ça en ligne de mire en 2017. Il insiste aussi rapidement sur la laïcité, Gabriel Attal, en disant que pour un homme comme Emmanuel Macron, les questions identitaires, en fait, étaient exclusivement des questions économiques. Donc ça, c'est la vieille lune, vous savez, très clintonienne, hein, puisque du temps de Clinton, on disait déjà « it's economy stupid », c'est-à-dire, en fait, il n'y a que l'économie comme problème imbécile, ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit d'autre. Et au contraire, Attal dit qu'il ne résoudra pas uniquement les problématiques françaises uniquement par l'équation économique, et que lui, il a compris ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas compris. Maintenant, plusieurs remarques. Si vous demandez à n'importe lequel des présidents précédents, je vous donne un exemple, Nicolas Sarkozy, qui incarnait également, lui, soi-disant, une sorte de rupture dans la continuité, puisqu'il avait quand même fait ses armes sous Balladur, sous Jacques Chirac, et il a été élu en 2007. Nicolas Sarkozy n'a pas géré, on va dire, le traité de Maastricht ou le passage à l'euro, d'accord ? Ça l'a pas empêché en 2017 de trouver une sorte de fil conducteur pour démontrer qu'il était le nouveau candidat. Ouais. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que tous les mandats de nos présidents connaissent des nouveautés. Heureusement que l'histoire ne se fiche pas. On s'ennuierait comme des rats morts. Donc, dire comme Attal qu'il y avait la guerre, il y a la guerre, mais il n'y avait pas la guerre il y a 10 ans, ou il n'y avait pas l'IA il y a 10 ans, honnêtement, je m'excuse de l'expression ce matin, c'est un gros foutage de gueule, mmh. puisqu'à chaque mandat et à chaque période, l'histoire change. Mmh. Maintenant, pour moi, le problème, il est simple, c'est que Gabriel Attal, il est, contrairement à ce qu'il essaye de ne pas faire croire, il est totalement comptable des années Macron pour une raison simple, c'est que si vous faites une sorte de chronologie, de biographie d'Attal au travers des années Macron, il n'est pas simplement un Macron boys comme certains l'ont été. Il a été à tous les postes qui posent problème. Je vous donne un exemple. Il a été ministre de l'Éducation nationale très rapidement, certes. On ne peut pas dire que l'Éducation nationale sorte grandie des années Macron. Il a été ministre délégué en charge des comptes publics. Oui. C'est-à-dire à la tête, même brièvement, mais d'un poste qui est précisément celui qui connaît le bilan le plus dramatique, puisqu'on a 1500 milliards de dettes en plus sous les années Macron. Je vous donne un dernier exemple, il était Premier ministre, on s'en souvient, très brièvement, là encore, on n'a absolument aucun souvenir des années, des mois Attal, si ce n'est qu'il a été, il a tenté d'être un peu plus ferme sur deux, trois questions dans la rhétorique, notamment sur les questions de l'abaya à l'école, quand il était ministre de l'Éducation nationale. On peut pas dire que ça ait changé quoi que ce soit. Mmh. Ce qui veut dire que Gabriel Attal, et ça c'est un vrai problème pour moi, pour lui, il fait ce qu'il veut, il a manifestement les médias avec lui, mais tout de même, il doit tenter de dire qu'il n'a rien à voir avec Macron, alors qu'en réalité, il a été non pas seulement l'un des apparatchiks du système Macron, il a été en réalité aux manettes directes ou indirectes de tous les postes à problème, de tous les gens qui ont pris bon gré mal gré les mauvaises décisions depuis 10 ans, et je le précise, à seulement 37 ans aujourd'hui, ce qui veut dire que très tôt, il a eu très tort et qu'il va devoir nous faire le croire le contraire en 2017.
Ouais. Alors surtout que ce qui est assez fascinant, c'est que d'un côté, vous en avez parlé un petit peu, mais Gabriel Attal rappelle dès qu'il passe sur un entretien dans une interview qu'en réalité il a interdit l'abaya, qu'il est pour la laïcité, qu'il est pour la fermeté dans la laïcité, tu casses tu payes, on connaît son expression. D'un autre côté, il joue aussi sur sa gauche en remettant une pièce dans la machine progressiste, notamment au niveau de la GPA. Alors là, c'est un petit peu la nouvelle offensive attalienne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que là, ces derniers jours, on peut percevoir qu'il pousse particulièrement le sujet de la GPA, que d'ailleurs, il est l'un des seuls à le faire. Et il a même dit, coïncidence formidable, que lui voulait un enfant avec son compagnon, Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné, qu'il avait nommé ministre quand même, alors que lui-même était Premier ministre, et que en réalité, c'est fait ces journées dont, pareil, le bilan est plus que discutable. Mais sur cette question de la GPA, en tout cas, on voit qu'il essaye aussi, comme le faisait Macron à l'époque, de jouer avec sa gauche par le progressisme.
Ah, complètement. Alors, vous savez, essayons quand même de dépasser un peu le cas Attal pour tout intéressant qu'il soit ou non, d'ailleurs, hein, dans cette période pré-présidentielle. En fait, Gabriel Attal, il est, pour moi, c'est extrêmement simple. Emmanuel Macron a été également ce candidat-là, mais... J'allais dire, je vais peut-être vous étonner ce matin, je m'excuse d'être. Je vais avoir un mot sympathique à l'égard de notre actuel président de la République, ce qui me paraît un peu délirant, ouais. Mais bon, vous savez, après la Pentecôte, tout arrive. Hein. c'est que tout de même, Emmanuel Macron, quand on se rappelle qui il était il y a 10 ans, je veux dire, je m'attendais pas grand-chose de lui, il a fait bien pire que prévu encore. Mmh. Il n'empêche, il y avait quelque chose chez lui d'une envergure presque curieuse, un peu mystique, ouais. Parfois chez Emmanuel Macron, que n'a absolument pas Gabriel Attal. Mmh. Gabriel Attal, c'est vraiment, on a le sentiment d'avoir un politique au petit pied, ouais. Roué sous la politique, qui a fait de la politique. On est quand même un peu loin d'Emmanuel Macron qui osait nous dire qu'il ne voulait pas faire de politique et qu'il était par-delà les clivages. Je trouve qu'il avait quelque chose de plus fascinant dans sa...
Ouais. D'ailleurs, dans sa faut dire aussi, Emmanuel Macron, oui. Se rajoutait un côté, alors qui était faux bien sûr, mais un petit peu philosophe, un petit peu spirituel, un côté effectivement où il voulait transcender les clivages. Je suis d'accord, il y avait une envergure qui était différente, alors que pour le coup, Gabriel Attal, il commence chez Hollande, c'est quand même le candidat du système, quoi.
Exactement. Alors, Emmanuel Macron était tout autant le candidat du système, mais ouais. Là, effectivement, je vous rejoins, il avait fait l'objet d'un livre de mémoire de Brice Couturier, je crois, qui s'appelait Emmanuel Macron, le président philosophe ouais. À l'époque. Alors, fallait quand même oser écrire un bouquin pareil, rien que le titre est une insulte à l'égard de tous ceux qui ont précédé, je pense au général de Gaulle ou à d'autres présidents, naturellement. Mmh. Il n'empêche, il y avait quelque chose comme une sorte d'épaisseur un peu mystique, et certains le regardaient comme le nouveau messie. Mmh. Ce que n'est pas Gabriel Attal. Gabriel Attal, vous avez raison, c'est beaucoup plus l'homme du système, un peu à l'ancienne. Il y a une différence, donc je disais, d'épaisseur et de personnalité entre les deux. Et puis d'autre part, je disais tout à l'heure, pour répondre à votre question, Gabriel Attal, pour moi, c'est typiquement le rajeunissement du candidat progressiste. Mmh. On est vraiment dans le progressisme chimiquement pur, c'est-à-dire qu'il n'offre absolument aucun intérêt, si ce n'est de pousser l'agenda que d'ailleurs Macron a poussé durant ces années. Je vous donne évidemment plusieurs exemples. On pourrait parler évidemment de la GPA aujourd'hui, la gestation pour autrui. Il y a évidemment le cas emblématique durant les années Macron de la constitutionnalisation de l'IVG, qui ne ferait aucun intérêt parce qu'en fait, il avait déjà valeur constitutionnelle d'une autre manière. Mais passons sur le fond, je veux dire, sur la forme et de l'IVG, je veux dire. Et Gabriel Attal, c'est le candidat progressiste parce que je pense profondément qu'avec son histoire avec Stéphane Séjourné, son pacte, ils se sont séparés, ils sont remis ensemble. Oui. Désormais, il en parle. Il parle de lui, je veux dire, dans son homosexualité et sa vie avec Stéphane Séjourné. Je n'ai qu'une remarque à faire là-dessus, c'est qu'en fait, exactement comme Jean-Luc Mélenchon, exactement comme lui, Gabriel Attal parie sur une certaine forme de nouvelle France. Mmh. C'est qu'en fait, pour lui, maintenant, la France de la diversité est une France dans laquelle l'hétérosexualité, je veux dire, n'est finalement qu'un reste vieillissant d'une société, on va dire, traditionnelle ou réactionnaire. Au fond, s'il y a de plus en plus de couples homosexuels, ça veut dire que de plus en plus de gens voteront pour lui, ce qui veut dire qu'il parie sur la mutation des métropoles. Là, on est nouveau dans la question de la Nouvelle-France, parce que Gabriel Attal fait le pari que les métropoles boboisées, smoothisées, intégrées, européistes, etc., seront fondamentalement enclines à entendre un discours diversitaire, pro-multiculturalisme, etc., et naturellement un discours sur la sexualité et la famille qui sera aux antipodes du discours traditionnel, c'est pas du tout étonnant.
Alors, Guylain Bénessa, je vais me faire l'avocat du diable donc de Gabriel Attal, mais il est quand même allé à la campagne pour aller déclarer sa candidature au milieu d'un petit village français dans lequel on voyait un drapeau français, où il y avait du pâté, où il y avait du saucisson. Est-ce qu'il ferait pas aussi un côté terroir, Gabriel Attal? Est-ce que c'est vraiment le candidat des bobos? Regardez cette annonce de candidature tout de même.
Vous savez, l'annonce de candidature de cette façon-là, pour moi, c'est simplement la France du « en même temps » d'Emmanuel Macron. Mmh. De nouveau, les mêmes ficelles. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment, la sociologie domine très largement l'hubris des petites gens. Ça veut dire que, et je m'excuse de dire petites gens, mais on a des politiques aux petits pieds depuis des décennies. Gabriel Attal, il est un candidat progressiste. Il est un candidat qui, sur le fond, au niveau de la sociologie, est assez proche, je pense, de Raphaël Glucksmann. Donc, je veux dire, aller dans la France qui souffre, la France périphérique, la France de Guy Louis, celle qui vote RN depuis maintenant des décennies, en réalité, qui a basculé depuis longtemps. Je ne dis pas par là qu'Attal ne mettra pas un drapeau français pour faire bien. Oui. Il faut bien faire semblant d'être patriote au moment où le patriotisme redevient une valeur fréquentable. Il faut bien faire semblant d'être français quand on se rend compte que l'Europe nous suicide. Mmh. Il faut bien faire semblant d'être de chez nous lorsqu'on se rend compte que le monde extérieur est un risque, que les dangers augmentent. Il n'empêche, c'est du cosmétique. Je pense quand même qu'un homme comme lui, qui a fréquenté l'IEP durant des années, qui a fréquenté la fin de la Hollandie, qui est un homme de la Macronie, je ne crois pas franchement qu'en 2026, en ce 26 mai, on ose pouvoir dire qu'il a arrêté de fréquenter tout ce qu'il a adulé durant ces décennies et qu'il est censé vouer aux gémonies pour redevenir un homme de la maison France. Sincèrement, il a peut-être que 37 ans, mais vous savez, faire son chemin de Damas, c'est compliqué, et surtout l'intérioriser, comprendre vraiment que le monde d'hier n'est plus le monde de demain et que la France existe toujours. Je me demande même comment Gabriel Attal ose le dire, si ce n'est qu'il faut faire comme Macron dur en même temps, c'est-à-dire on est tout. En même temps, on est français, européen, homosexuel, hétérosexuel, on est tout. On est vraiment cet homme liquide que Gabriel Attal, incarne quelque part à la merveille avec son jeune âge, son style, son égocentrisme, son moi-je à toutes les sauces, son récit personnel qu'il utilise plus d'une fois. Il est tout cela en même temps. Il est effectivement la suite d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Guilain Bénessa d'être avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes donc docteur en droit public, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de notamment Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. Si ça vous dérange pas, on va rester quelques instants ensemble. J'avais une autre question peut-être plus politique quelque part, c'est quel est l'espace qu'il y a entre Gabriel Attal, parce que d'un côté, vous l'avez dit, il a un peu la même sociologie que Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire ce côté pro-Union européenne, ce côté pro-Ukraine exacerbé, ce côté effectivement de gauche sans vraiment l'être, et à sa droite, il a Édouard Philippe qui pour le coup est le candidat on va dire, si vous me passez l'expression, des boomers macronistes, en tout cas de ceux qui aimaient bien l'aile droite macroniste. Quel espace il a vraiment, Gabriel Attal, dans tout ça?
Ça, c'est l'équation de la macronie crépusculaire. C'est-à-dire, la chute venant, chacun veut récupérer ses billes. Mmh. Alors, non, mais vraiment, je pense que Emmanuel Macron était cette espèce de gaz qui a tenu ensemble des contraires pendant 10 ans, bon gré, mal gré. Alors, en fait, Édouard Philippe, je pense qu'il y a sa sociologie, vous avez raison, l'aile droitière, si je puis dire, hein, parce que franchement, il y aurait beaucoup, beaucoup à préciser sur ce qu'on appelle l'aile droitière de la Macronie. Mais Édouard Philippe, je pense surtout, contrairement à Attal, je ne les envisagerai pas par la question de leur positionnement politique, si vous me permettez, mais de leur âge. Ouais. Je pense qu'Édouard Philippe, en réalité, il est le sage, en tout cas, il se vend comme le sage de la fin de la Macronie. C'est-à-dire, on a tenté le gamin il y a 10 ans, Emmanuel Macron était tout jeune. On a tenté donc le moins de 40 ans il y a 10 ans. On va repasser à des gens d'expérience. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe se vend, effectivement, vous avez raison, comme l'aile droitière de la Macronie, mais aussi comme l'homme qui était Premier ministre sous les Gilets jaunes il y a quelques années maintenant, oui, qui a fait un petit peu amende honorable, qui a un peu disparu dans sa ville du Havre, qui a été réélu, qu'on n'a pas entendu. Bref, il a envoyé, comme on dit, des cartes postales aux Français pour revenir. Oui. Gabriel Attal, je pense qu'effectivement, il tente de draguer l'aile gauche, mais aussi Gabriel Attal tente de rejouer le cambriolage d'il y a 10 ans. C'est-à-dire, il a 37 ans. Je m'excuse de le dire ainsi. Je ne suis pas beaucoup plus vieux que lui et je n'entends pas entrer en compétition avec Gabriel Attal, serait-ce sur le fond ou sur l'âge. Il n'empêche, à 37 ans, on retrouverait un enfant, je veux dire, un adolescent quasi dans le monde politique, candidat à la présidence de la République.
Vous savez, quand même, Guilain Bénessa, c'est que qui avait. En 2017, il y a un candidat qui se présente, il a 39 ans. C'est Emmanuel Macron.
Vous voulez dire. Ouais. Emmanuel Macron. Ouais. Exactement, c'est ça, Emmanuel Macron. Et donc, il tente de rejouer le casse à l'Emmanuel Macron. La question, c'est est-ce que les Français, même macronistes, préféreront le pseudo-vieux loup ou le pseudo-vieux lion plutôt que l'adolescent qui rejoue le casse à la Macron? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi je m'aperçois surtout que l'espace de Gabriel Attal, il n'existe pas hormis d'entrer en concurrence avec ceux qui réclament leur part du gâteau. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, Raphaël Glucksmann, c'est exactement la même chose. Le problème de Raphaël Glucksmann, c'est qu'à la limite, il est moins connu que Gabriel Attal. À mon avis, Gabriel Attal peut jouer de son rôle de ministre, d'ex-ministre, premier ministre, pour quand même exister aux yeux des Français dans leur globalité. Ouais. Moi je pense que vous allez dans le Morbihan, je veux dire, ou dans le fin fond des Vosges que je connais bien, vous parlez de Gabriel Attal, je pense qu'on vous dit à l'anglaise, Gabriel who? Vous voyez, on se demande, je veux dire, mais je pense que Raphaël Glucksmann, Raphaël who, serait encore plus adapté. C'est-à-dire que je pense que Raphaël Glucksmann est inconnu d'une partie des Français. Attal jouit quelque peu de son passage dans les ministères.
Et d'un autre côté, cette notoriété lui serait pas forcément favorable non plus. C'est ça aussi qu'on comprend dans ce que vous dites. C'est-à-dire que, d'un autre côté, cette notoriété, c'est aussi un bilan, c'est aussi une comptabilité.
Exactement, c'est aussi une comptabilité. Il le dit d'ailleurs qu'il rêve de ne pas être comptable ou qu'il l'est tout en revendiquant de ne pas l'être. Hein, dans son interview dans Brut, il tente de faire le jeu entre les deux. En même temps, on y est de nouveau. C'est-à-dire de dire « je ne suis pas comptable, mais je ne renie pas mes engagements durant ces 10 ans ». Ce qui veut strictement rien dire. Soit vous êtes engagé, vous avez un bilan, vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas de bilan. Maintenant, pour être clair, je pense que pour l'instant, et c'est pas pour tenter de rester mesuré, je pense que pour l'instant, le problème, c'est que on a une élection présidentielle qui s'annonce, qui a l'air d'être la plus médiocre qu'on a jamais eue. Je pèse mes mots. On a des candidats qui ne devraient pas être candidats, qui n'ont ni la légitimité ni l'épaisseur pour l'être. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Sauf qu'on en a un nouveau tous les 15 jours et que désormais, ça devient la course des petits chevaux entre des gens dont on n'aurait même pas imaginé que certains se présentent. Ouais. Désolé, mais l'embouteillage est tel que Gabriel Attal là-dedans, au fond, il a plus ses chances ou pas moins ses chances que les autres qu'il côtoie autour de lui. Maintenant, le problème.
Et puis, pardon, mais Gabriel Attal a aussi un petit avantage, Guilain Bénessa, c'est qu'il a repris le parti qui était En Marche, mais qui est devenu, au fil du temps, Renaissance. Et puis, à côté, donc, ça veut dire qu'il a repris tout l'appareil, ne serait-ce que financier, de ce parti. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'il a également repris eh bien, les comptes sur les réseaux sociaux, qu'il a repris le réseau, les réseaux Macron derrière lui. Et ce qui est assez étonnant là-dedans quand même, c'est que Macron n'a pas adoubé Gabriel Attal comme il n'a pas adoubé Édouard Philippe. On sent que les deux personnes qui essayent de se poser en héritier d'Emmanuel Macron sont deux personnes que Emmanuel Macron finalement ne n'adoube pas et n'a pas envie de soutenir pour le moment.
Absolument. Alors là, vous avez tout à fait raison. Et juste pour, je vais répondre en deux temps, si vous le permettez, parce que vous me coupez l'herbe sur le pied, mais l'herbe sur le pied, mais c'est très bien. Non, mais je vous en prie, c'est très bien. Premièrement, sur le cas de la succession, je pense qu'Emmanuel Macron, alors de façon tout à fait illégitime et scandaleuse, il a en fait décidé, je pense intérieurement, je fais la psychologie macronienne, de récupérer cette phrase du général de Gaulle qui était superbe quand on lui demandait s'il adoubait Georges Pompidou, vous savez, qui se revendiquait comme le successeur. De Gaulle disait la chose suivante, il disait « On ne succède pas au général de Gaulle, on devient juste président de la République. » Je pense qu'Emmanuel Macron, alors, de façon somme toute, assez scandaleuse vu son bilan et assez sordide, vu son européisme foncier et son antipatriotisme quasi foncier, je pense qu'Emmanuel Macron, il a essayé de faire le vide après lui, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être celui dont découlera un successeur. Il ne veut pas reconnaître un successeur. La course des petits choix a commencé. Au jeu du plus fort, il faudra que quelqu'un l'emporte. Je veux dire, c'est ainsi. Et Emmanuel Macron, je pense, il n'a pas envie de penser à la suite. Il se dit, je suis unique et je suis l'astre. Quelqu'un n'a qu'à l'emporter pour suivre son bilan. Maintenant, ça n'empêche pas de mettre des garde-fous au Conseil constitutionnel, à la Cour des comptes, à la Banque de France, etc., histoire de vérifier que si le RN est élu, il puisse rien faire sans liquider toute l'administration qu'il aura nommée. Maintenant, le deuxième point sur le cas Attal, j'ai ouï dire, c'est des rumeurs de coulisses politiques, mais j'ai ouï dire que Bruno Retailleau notamment, mais pas seulement Bruno Retailleau, aurait quelques problèmes de finances au niveau de certains partis pour conduire leur campagne, dans la mesure où on ne peut pas dire que ce soit le temps de l'opulence pour les partis qui n'ont pas gagné une élection majeure depuis longtemps. Ce qui veut dire qu'Attal, et là je vous rejoins, c'est pour ça que je vous disais, vous anticipez quelque peu ma réponse, mais c'est très bien, c'est que précisément Attal, en mettant la main sur le parti, il est en situation de... il a une avance confortable en matière de communication par rapport à certains autres. Je pense quand même que le PS, par la voix de son... on va dire de ce qu'il en reste que de président, c'est-à-dire Olivier Faure, qui lui aussi n'est pas... d'ailleurs, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots du matin, mais le fort d'Olivier Faure n'est pas de ressembler franchement aux Français et de parler à tous les Français. Hein. On ne peut pas le dire que ce soit autre chose que le président d'un grenier, je veux dire à peu de choses près. Je pense que chacun a son grenier, mais que dans ce jeu de concurrence entre les greniers pourrissants, il est clair qu'Attal a mis la main sur quelque chose qui va être vivre. Je pense aussi que c'est la raison pour laquelle la communication fonctionne fort et pour laquelle, en fait, on le voit partout. Vous demandez quand même à un Français d'identifier un autre candidat à gauche. Et ils sont quand même quelques-uns à en avoir parlé à moitié, un petit peu, passionnément à la folie. Hein. Bernard Cazeneuve, François Hollande, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal. Je vous rappelle que Jérôme Guedj s'imagine également candidat à la présidence de la République. J'arrive même pas à le dire sérieusement ce matin en vous parlant de Jérôme Guedj, mais ça veut dire que concrètement, l'embouteillage à gauche, on trouve 5-6 candidats, alors que j'ai même pas cherché à trouver tous les autres et à les dénicher.
Oui, parce qu'effectivement, on peut parler de Gérald Darmanin, qui, lui, y songe. On peut parler même de cette droite qui n'en est qu'à moitié une, hein, mais de Xavier Bertrand, par exemple, qui, lui, semble toujours vouloir croire à son destin. Et finalement, en fait, on a l'impression que même au global, hein, pas seulement sur le centre, mais que c'est cette inflation de candidats, ça mène aussi à une dévalorisation de justement la personnalité, l'appréciation de ces personnalités politiques. On voit que à part peut-être Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella ou Marine Le Pen, personne ne suscite suffisamment d'adhésion pour que finalement même les électeurs de centre ou de gauche trouvent vraiment quelque part leur champion, trouvent vraiment quelqu'un qui puisse, selon eux, l'emporter et rassembler les Français.
Vous savez, là après les petites intonations burlesques à laquelle je me suis laissé tenter sur Gabriel Attal, revenons quand même au fond de l'affaire, parce que là vous posez la question qui tue. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, elle a tous ses défauts. Elle a une immense qualité qui était pensée comme ça par le général de Gaulle en 62, lorsqu'il a voulu cette réforme, cette grande réforme qui a quand même tout changé dans notre paysage politique. Il rêvait de la rencontre entre un homme ou une femme, dirait-on aujourd'hui, et son peuple. Ça veut dire que ça se voyait comme l'élection présidentielle, c'était la compétition par excellence dans laquelle vous vous estimez, vous, simple petit personnage de habitant la France, vous estimez que vous avez la dignité, la légitimité et le destin. Ça nécessite certainement un peu de mégalomanie, mais aussi un peu de personnalité, de charisme. Vous estimiez qu'un destin national vous attendait.
Oui.
D'ailleurs, je suis frappé en reprenant le discours de nos ancêtres, la grande période de Gaulle, même Pompidou, je veux dire, j'ai pas une affection spécifique pour le bilan de Pompidou, sur certains aspects oui, sur d'autres non, peu importe. C'est des gens qui n'arrêtaient pas de dire « je n'ai pas de destin politique, j'aurai peut-être un destin national
ouais. ».
C'est-à-dire qu'ils voyaient cela comme une fonction de réconciliation, une fonction dont la charge est une douleur. Est une douleur. C'est-à-dire que, regardez les derniers mois de Georges Pompidou, il est très malade, il a un mal fou à achever son mandat, et en fait, c'est une difficulté, c'est un chemin de croix. Et il dira même, je crois, à sa femme, il dira, le bonheur est fini pour moi, je vis en marge.
Oui.
C'est-à-dire qu'il a compris que c'était une fonction à habiter. Aujourd'hui, pour vous répondre clairement, qu'est-ce que font tous ces candidats de pacotille? Certains sont plus sérieux que d'autres. D'autres, honnêtement relèvent du guignol de l'époque. Je veux dire, de l'esprit du temps et notre zeitgeist n'est pas très flamboyant. Ils estiment au fond qu'après avoir été peut-être secrétaire d'État, qu'après avoir été peut-être ministre délégué chargé de quoi que ce soit, qu'après avoir été dans l'antichambre des grands, de François Hollande ou de Macron, le destin les attendait, d'accord? La grande œuvre les attendait. Pour quelle raison? C'est que plus personne ou presque parmi eux ne se demande si ce n'est pas, s'il a la dignité, l'épaisseur, le niveau et le pays en lui pour avoir le droit de le représenter. D'où cette course des petits chevaux à laquelle nous assistons.
Merci beaucoup Guilain Bénessa, on va finir sur ces mots. Merci d'être resté un petit peu plus longtemps que prévu. Ça nous a permis effectivement d'avoir sans doute une analyse plus complète et sans doute que ça aurait été insuffisant sinon. Merci effectivement d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt bien sûr pour parler évidemment de ce centre et puis de cette Macronie finissante ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, il est 7h37. Dans un instant, ce sera, dans 10 minutes, ce sera la chronique de Richard de 16 et puis celle de Gabriel Fouquet à 8h16 avant de parler avec Edouard Husson. Mais tout de suite, nous allons parler du film L'Abandon sur Samuel Paty. Et ça, c'est avec Christophe Boutin.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Boutin. Christophe Boutin, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, du moins je l'espère.
Oui, alors ça marche très bien. Alors je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'Université de Caen, auteur de nombreux ouvrages, notamment, je crois, le Dictionnaire du conservatisme que vous avez publié récemment. La raison pour laquelle on vous a invité ce matin, c'était pour parler de ce film L'Abandon, film donc qui parle des derniers jours, des 11 derniers jours de Samuel Paty, film dans lequel effectivement on observe un petit peu tous les mécanismes qui ont mené à la mort de Samuel Paty. Déjà, première question, 6 ans après la mort donc de cet enseignant décapité au cours d'un attentat islamiste, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé au niveau justement du professorat, de l'éducation nationale, de manière concrète ?
Écoutez, oui, bien évidemment, il y a des choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte qui ne peut pas être passée sous silence de ce côté-là de la part de l'administration. Maintenant, sur les réflexes même de l'administration, ça c'est autre chose.
Ouais.
Il y a de ce côté-là cette même ambiguïté. Le terme est très clair par le titre du film, l'abandon. Voilà quelqu'un qui... Il y a des signaux d'alerte, il y a des éléments qui pourraient laisser penser qu'il y a des menaces qui sont d'abord à bas bruit, mais qui se précisent. Et face à cela, il y a une hiérarchie qui a tendance, de manière systématique, à minimiser les choses, à les prendre un peu, même franchement, à la légère. Et cela pose vraiment un problème de cohérence de l'administration. Mais c'est quelque chose qu'on a dans l'éducation nationale, c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, globalement à l'échelle du pays. Il y a un moment où il faut savoir trouver une juste limite entre une sorte d'alarmisme permanent qui lui-même est improductif et au contraire la politique de l'autruche, se mettre la tête dans le sable et ne rien vouloir voir, c'est un curseur qui est difficile à trouver, disons-le clairement.
Et alors justement, effectivement, quelque chose qui semble particulièrement marquant dans cette affaire, c'est que quand on voit le film, quand on regarde un petit peu tous les mécanismes qui mènent à la mort de Samuel Paty, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de gradation qui se fait, où on voit que finalement, il y a un effet boule de neige. On a l'impression qu'en réalité, aujourd'hui encore, dans le corps enseignant, il y a quand même cette crainte d'être taxé d'extrême droite, ne serait-ce qu'auprès de ses collègues. Il y a quand même cette crainte se prendre devoir rentrer dans des procédures disciplinaires. Il y a quand même cette crainte de la part des proviseurs, parce que ce système-là n'a pas encore été changé, de se s'impliquer dans de telles affaires, parce que ça veut dire qu'il y aurait des problèmes dans l'établissement et donc ça empêcherait leur avancement. Dans le fond, on a l'impression que les modifications qui ont été faites sont presque cosmétiques.
Il y a des possibilités de réponse beaucoup plus fermes, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'alerte qui ont été mis en place qui, effectivement, pourraient être efficaces. Maintenant, ce que vous décrivez est assez juste, et c'est valable d'ailleurs encore une fois pour toutes les administrations. Il y a une règle, je dirais, tacite de l'administration qui est pas de vague. Il s'agit de ne surtout pas faire de vague, de ne surtout pas se faire remarquer, car, comme vous le disiez, se faire remarquer, c'est peut-être nuire à son avancement, c'est peut-être montrer en quelque sorte qu'il y a un dysfonctionnement. Et c'est là qu'est le problème. Alerter sur quelque chose, ce n'est pas nécessairement faire preuve d'un dysfonctionnement dans la gestion du service que l'on a sous ses ordres. Mmh. Bien au contraire, c'est parfois quelque chose d'absolument indispensable. C'est même un acte de commandement essentiel que d'être capable d'alerter à temps, de préciser et de s'affirmer face à une menace. Et cela, c'est la difficulté du moment. On le voit d'ailleurs car, soyons clairs, les menaces n'ont pas cessé avec la mort de Samuel Paty, n'ont pas cessé avec les nouveaux systèmes qui ont été mis en place. Il y a actuellement plus des enseignants qui se font régulièrement menacer d'une manière qui était tout à fait impensable. Il y a de cela non pas 40 ans ou 50 ans, mais il y a de cela ne serait-ce qu'une décennie.
Et alors maintenant, je voudrais arriver effectivement sur... revenons un petit peu justement sur la sortie du film. Très rapidement, ce qui sort, c'est évidemment, donc ce film est diffusé au Festival de Cannes. Quelques journalistes vont interroger des influenceurs, enfin des personnalités, pour savoir ce qu'ils ont pensé du film L'Abandon. Et alors là, je citerai notamment le vidéaste Grim Cujo qui, lui, de son côté, en parle immédiatement comme un film d'extrême droite. On entend beaucoup que c'est un film islamophobe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, effectivement, de ces réactions presque instinctives sur un film qui, en plus, fait attention à ne pas faire d'amalgame, à ne pas mettre tous les musulmans dans le même panier, à montrer des musulmans modérés dans certains domaines. Comment vous expliquez cette réaction presque épidermique?
Alors, je parle par le terme que vous employez pour certains, c'est-à-dire que c'est épidermique, c'est-à-dire que de toute manière, il y a des sujets sur lesquels il est absolument pour eux interdit de parler, interdit de montrer la réalité. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, qui ne peuvent pas être montrées, et ce film en serait un exemple. En dehors de ce caractère épidermique, il y a aussi une gêne profonde, une gêne à savoir, à nommer la réalité, à savoir qui est, alors je ne dirais pas l'ennemi, n'employant pas des termes qui seraient ici tout à fait hors de propos, mais qui est, quelle est la menace, la définir très clairement. Le film, vous le dites, est tout à fait équilibré en la matière. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de dénonciation a priori d'une communauté en général. Il s'agit bien de montrer comment des éléments appartenant effectivement à cette communauté, nul ne peut le nier, je crois, peuvent déraper, si je puis dire, et arriver à l'abominable sur une base pseudo-idéologique, car on le vois aussi, ceux qui ont agi sont quand même des gens qui n'ont pas réellement une capacité d'analyse très poussée.
Oui. Ouais, mais d'un autre côté, l'impression qu'on a presque, Christophe Boutin, dans, justement en écoutant toutes ces personnes, c'est que finalement, ce qui est assez insupportable, c'est que la réalité est un peu d'extrême droite sur l'affaire Paty.
Et c'est toute la réalité qui est d'extrême droite, et pas uniquement sur l'affaire Paty, sur
vrai,
un certain nombre de domaines. Si vous voulez, il y a un nombre de choses que vous ne pouvez pas nommer, il y a un nombre de chiffres que vous ne pouvez pas trouver, que vous ne pouvez même pas d'ailleurs trouver, j'emploie le terme à dessein, puisque ces chiffres-là ne sont pas autorisés. Donc partant de là, comment définir la réalité quand on vous interdit d'avoir les éléments d'analyse de cette réalité? Et cela fait partie, je crois, de cette chape de plomb qui, d'abord, qui paraît, disons-le très clairement, tout à fait maintenant insupportable et dépassée à nombre de Français. Je crois que c'est ce système médiatique qui croit ainsi protéger les choses par ce voile pudique jeté sur les événements, sur la réalité, ce système aboutit simplement à montrer sa déconnexion complète d'avec cette réalité, une déconnexion à laquelle les Français sont particulièrement sensibles. Ça les conduit à ne plus croire actuellement ce qui est dit en langage officiel. C'est vraiment un problème.
Alors, d'autant que le film, on le sait, et on va dire, alors je ne sais pas si historiquement c'est le bon terme vu qu'on parle de ce qui s'est passé il y a seulement 6 ans, mais enfin, on sait que factuellement, il est juste, il a été notamment validé par la sœur de Samuel Paty, Michaël Paty. D'un autre côté, c'est effectivement un film qui, on le disait, hein, mais n'est pas un film que nous considérerions, on va dire, d'extrême droite, mais plutôt centriste. En réalité, on a l'impression que ce qui gêne aussi beaucoup toute la gauche dans ce film sur Samuel Paty, c'est qu'elle est tellement habituée à avoir le monopole du récit que pour une fois qu'un récit vient d'ailleurs que de la gauche, elle ne le supporte pas.
Mais je crois, vous savez, ce qui gêne surtout la gauche face à ce film, c'est que ce film démontre son échec.
Ouais.
C'est l'échec complet de la pseudo-intégration, de la laïcité à l'école, de cette formation qu'on allait donner à l'école et aux gens qui venaient chez nous, qui venaient naturellement travailler, qui cherchaient à s'intégrer, car l'intégration allait être naturellement parfaitement réussie. Hein. D'ailleurs, les gens qui venaient allaient être, pour les uns chirurgiens, pour les autres avocats, ressources. C'est la Nouvelle France, la thèse de la Nouvelle France, quasiment, de Jean-Luc Mélenchon. Et tout ça, ça a été un bide, enfin, pas totalement, Dieu merci, disons-le, tout n'a pas été un échec. Mais il y a effectivement des trous dans la raquette, mais ces trous dans la raquette, la gauche refuse à les constater, elle refuse à les prendre en compte.
Oui, et puis alors ce que en revanche la gauche prend toujours très rapidement en compte, ce sont toutes les accusations de racisme et d'islamophobie. On a l'impression que, et c'est un peu ce qu'on voit dans le film d'ailleurs, c'est que justement cette idée qu'on pourrait être islamophobe ou raciste, ça reste dans le fond, même aujourd'hui encore dans la société, un peu le crime suprême pour la gauche. C'est-à-dire que finalement on peut en venir à on va pas dire évidemment défendre les terroristes, mais enfin, on peut défendre certaines positions, certaines personnes, certains actes, parce que, en fait, ces personnes sont prétendument victimes de racisme, et donc, elles subissent une sorte de crime suprême. Enfin, comment vous expliquez le fait que, finalement, ce soit ça qui soit devenu aujourd'hui l'étalon pour la gauche de ce qui est du registre de l'horreur ou pas?
La logique de la gauche a toujours été une logique de victimisation. Ça a toujours été une logique de deux camps dans lesquels il y a un clan de dominants qui fait peser une tutelle sur des victimes ou potentiellement victimes et un clan de dominés qui subit en silence jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il est tenté par la révolution. Le schéma marxiste, si vous voulez, de la révolution fonctionne exactement dans cette logique. Et c'est appliqué ici à d'autres domaines. Alors, c'est effectivement appliqué à des domaines sur lesquels, en plus, la gauche a le monopole de la définition. Qui définit qui est raciste? La gauche.
Oui.
Qui définit qui est islamophobe? La gauche.
Oui.
Et à partir, on voit la voie d'ailleurs, c'est assez amusant, car après tout, l'arroseur arrosé reste un de mes spectacles préférés. Oui. On la voit régulièrement se dévorer elle-même. C'est-à-dire que des gens de gauche qui avaient fait preuve jusque-là de tout le respect des langages attendus, de la doxa, se trouvent pris à leur propre piège par d'autres plus radicaux qu'eux qui finissent par les accuser d'islamophobie ou d'antisémitisme ou autre, ou de racisme, et sont finalement dépassés par leurs propres troupes.
Oui, et puis d'ailleurs, on l'observe hein, d'ailleurs dans toute cette affaire autour du film L'Abandon, où une petite partie de la gauche, du centre-gauche disons plutôt, lui pour le coup est dérangé effectivement par les prises de position de la gauche plus radicale, qui évidemment de son côté ne se prive pas pour traiter la gauche modérée d'islamophobe elle aussi, ou d'islamophobo-compatible, ou d'irresponsable selon les termes. Christophe Boutin, vous restez avec nous, on vous retrouve simplement à 8h, parce que tout de suite, c'est la chronique de Richard de Sèze.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Richard.
Bonjour.
Vous avez passé un bon week-end de la Pentecôte ?
J'ai passé un excellent week-end, merci beaucoup. Bon. Et il a été bercé, évidemment, par ma soif assoiffée de nouvelles macroniennes. Et je n'ai pas été déçu. Alors, certains ont pèleriné jusqu'à Chartres. Moi, j'étais là en train de zapper sur Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn, etc. Partout où le président est, car partout où il est, je suis. Et quelque chose m'a quand même un peu, gêné. Vous avez remarqué, on ne sait pas quand ça s'arrête.
Quoi ?
Le quinquennat ? Le deuxième ?
Bah, c'est dans un an, non ?
Non, alors normalement le président annonce un an avant l'échéance que c'est fini.
Ah oui, ça commence à devenir inquiétant. Hein.
Alors, c'est le 14 mai qu'il aurait dû parler.
Oui.
Non, parce que fondamentalement, hein, on sait bien, ça va avoir lieu en avril, quoi. Mais enfin voilà, le premier tour. Et là, il dit rien. Et on dit 14 mai, 15 mai, j'étais un peu inquiet, oui. Donc là pendant la Pentecôte je me suis dit bon, il va se passer quelque chose, enfin voilà, il va recevoir un signe lui aussi, et ben non, pas du tout, voilà. Donc officiellement c'est fini le 14 mai 2027, et donc officiellement, normalement, le président aurait dû l'annoncer, mais là, il est
peut-être occupé.
Il est occupé, il n'est pas pressé, en fait, les gens disent, il voudrait faire de l'annonce de ses dates, la date de sa mort politique, la date de son élimination du jeu français, au moins pour 5 ans, en attendant 2032, il veut en faire un non-événement.
Ah.
Il veut nous l'annoncer en douceur parce que il a peur qu'on soit. Ce sera un choc quand même. Là, on baigne dans le confort, on baigne dans la joie, la bonne humeur, l'opulence. Macron, si on devait résumer sa présidence, ses deux présidences, c'est opulence. Et ben voilà. Et ben sa présidence opulente, elle prendra fin le 14 mai 2027. Mais pour le moment, il n'en parle pas parce qu'il faut nous l'annoncer en douceur. C'est un non-événement. Alors certains disent. Il a peut-être du mal, en fait, à conceptualiser le fait que bientôt c'est fini. Et il y a des gens qui l'aident. Macron, c'est quelqu'un de seul, parce que quand on est intelligent comme lui, c'est compliqué d'avoir des interlocuteurs. Bon, il y a Brigitte, bien sûr. Il y a des gens comme Christophe Castaner. Enfin, voilà. Bon, il y a les vrais amis, il y a les vrais compagnons. Mais bon, fondamentalement, c'est un peu un phénix. C'est un peu un goéland qui vole là-dessus, un gerfaut. Enfin, vous savez, tous ces oiseaux là, un albatros. Voilà, merci. Vous êtes un poète. Alors, il y en a qui l'aident quand même, c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a récupéré tous les comptes de soutien à Emmanuel Macron, il les a renommés Attal Président, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, sur Instagram, le compte Attal Président compte 35 000 abonnés et 50 000 sur X. Alors, on se dit, mais là, ce garçon est formidable, il a bénéficié d'un bouche à oreille incroyable. Je veux dire, il est jeune, il est nul, il a été à peine président, il a été à peine ministre, il a été à peine premier ministre, il a été à peine rien, il a déjà 50 000 personnes sur X. En fait, pas du tout. Il a officialisé avant le week-end sa candidature à l'élection présidentielle, déjà 35 000 abonnés sur Instagram, parce qu'il a piqué tous les comptes de soutien du candidat Emmanuel Macron en 2022. Il a modifié les noms, il a modifié le logo. Je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi il a modifié le nom. Parce que là, il aurait pu dire, voilà, Gabriel Attal, le nouveau Emmanuel Macron. C'est un slogan que je vous propose, Gabriel, parce que c'est vendeur. Quand on voit la queue de popularité d'Emmanuel en ce moment, se dire, voilà, se présenter comme le nouveau Emmanuel Macron, à mon avis, c'est vendeur. Puis lui aussi, il a des histoires conjugales un peu compliquées. Voilà, bon, il a fait en sorte que Stéphane Séjourné, son compagnon, redevienne son compagnon avant de lancer sa campagne présidentielle.
Arrêtez de parler de ça de manière aussi légère. C'est une histoire qui m'a brisé le cœur. Plein de rebondissements.
Je comprends. Oui, on a un peu pris l'habitude d'avoir des familles légèrement dysfonctionnelles avec qui se déchirent à la tête de l'État ou qui ne se déchirent pas, mais qui ont avec des origines quand même un peu pénibles. Vous savez, elle est retournée à Elle est retournée dans les collèges, Brigitte.
Voilà. Je crois que c'est depuis Goldshift.
Exactement. Elle essaye, la scène originale, comme on dirait chez Freud. Et ben là, elle est en visite à Metz et elle a été très simple. Dire, c'est comme ça que Galland en parle, une première dame simple. En visite à Metz, Brigitte Macron s'est jointe à des collégiens pour le déjeuner. L'épouse d'Emmanuel Macron, au cas où on ne saurait pas, vous savez, c'est Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel. Oui. C'est pas l'autre. C'est celle qui est gardienne d'immeuble les Aubrais. Non, pas du tout. En fait, elle, c'est vraiment l'épouse d'Emmanuel Macron. D'habitude, Galland consacre énormément de pages à des gens totalement inconnus, dont on ne connaît pas les noms et dont on ne connaît pas la vie. Et donc là, c'est pour ça qu'il précise que Brigitte Macron est l'épouse d'Emmanuel Macron. Et le ministre de l'Éducation nationale, donc en toute simplicité, se sont rendus dans le collège Jean Rostand de Metz ce vendredi 22 mai pour parler de harcèlement scolaire. Ça, c'est quelque chose, elle y est sensible. On l'a dit à plusieurs reprises pendant ses chroniques. Elle est courageuse. Il y a des mauvaises langues qui pourraient dire c'est normal, elle-même, elle n'était pas blanc-blanc. Moi, je dis, il faut halte aux rumeurs. Elle est allée à Metz et elle est allée à la cantine de Metz, elle a pris de temps en temps les gens nous disent, vous savez Delphine Arnaud par exemple, Radio Courtoisie c'est du journalisme d'opinion, c'est pas du journalisme d'information. Delphine, tu nous as fait mal ce jour-là, mais t'avais un peu raison, et donc du coup nous, Alexandre, Maïlis, Magda, Franck, Arnaud, Louis, on se dit c'est quoi les vrais journalistes, ces gars-là. La première dame a opté pour une assiette de pâtes recouverte de fromage, une salade verte et une part de tarte aux pommes. Wow. Nous, on est dans l'opinion. Là, on parle, on dit du mal des gens. Alors, il y a des vrais journalistes. Ils ont le menu. Ils ont le menu de la première dame toute simple, Brigitte Macron, vous savez, la femme d'Emmanuel, pas l'autre. Et elle a fait le tour de la cantine, elle s'est assise à plusieurs tables pour parler aux élèves, et ensuite, elle s'est posée pour déjeuner à son tour. Voilà. En fait, de temps en temps, il y a des commentateurs politiques qui prennent n'importe quoi. Et puis, il y a des vrais journalistes qui font un vrai boulot. Elle est allée à Metz, elle a pris de la tarte aux pommes, elle s'est assise pour le manger.
Et Richard, imaginez juste une seconde, mais quelqu'un qui fait ça pour vous dans toute votre vie. Un journaliste qui vous suit et qui dit Richard de Sèze est ensuite allé prendre son café en ajoutant une petite noisette de lait.
Jamais la noisette de lait. Brigitte, elle est à Metz, en train de se souvenir de ses années de collège. Elle papote avec des collégiens. Elle mange des tartes aux pommes avec eux. Elle leur parle de théâtre. Bon, le journaliste est parti après. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et lui, Emmanuel Macron, il réunit des gens à l'Élysée. Par exemple, il les réunit pour faire en sorte qu'il y ait un véritable élan de consommation d'électricité en France. Macron, c'est le mec, il est vraiment branché sur le quotidien déjà. Là, on est tous en train de... comme ça, entre le prix de l'essence, le prix de l'électricité. Et il dit, pas du tout. En fait, il y a de la place pour augmenter massivement la consommation d'électricité et être indépendant d'un point de vue énergétique. Donc en fait, lui, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit gavé d'électricité du matin au soir et qu'on fasse en sorte que tous les usages deviennent électriques. Il faut présenter des solutions pour changer de véhicule électrique, pour électrifier le chauffage, etc. Là, je pense qu'ils sont à deux doigts de bannir le bois, ils sont à deux doigts de bannir le pétrole. C'est absolument fou. J'étais évidemment admiratif, comme d'habitude, de tout ce que fait Emmanuel Macron, parce que c'est compliqué de ne pas être admiratif. Les gens nous l'envient, vous savez, j'en parlais à je ne sais pas qui, mais les gens nous l'envient. Et donc... Par exemple, ils ont renoué avec l'Algérie, par exemple. Vous savez, il y a les relations, ils ont renvoyé l'ambassadeur de France qui avait été rappelé en France est reparti en Algérie. Le garde des Sceaux est allé visiter Alger et tout de suite, aucun problème. Tout de suite, Jean-Noël Barrot a été traîné dans la boue par la presse algérienne à cause du Sahara occidental. Et Tebboune a publié une loi de criminalisation de la présence française. Ils sont efficaces. Alors là, sur l'électricité, on va bien voir ce qui se passe. Mais donc tout ça pour vous dire que Emmanuel Macron, c'est un être qui a su rester simple. Et il a été interrogé par The Brolos.
The
Brolos. Vous ne connaissez pas, c'est un compte Instagram avec un jeune qui est absolument passionné d'astrophysique, etc. Un peu comme Maïlis. Mais lui, au lieu d'être journaliste politique, Maïlis est passionné d'astrophysique, vous ne saviez pas Maïlis voulait devenir astronaute quand elle était petite.
C'est vrai?
Ben oui, bien sûr que c'est vrai.
C'est vrai, Maïlis? D'accord, je vois qui c'est derrière, d'accord.
The Brolos, il lui pose une question assez simple. Qu'est-ce que vous feriez s'il y avait une autre planète? Alors nous, on est là, il va y aller. On se dit, croisons les doigts. Et il dit, non, pas du tout, ça ne changerait rien. Et là, je cite Emmanuel Macron. Parce que si j'ai rendu ou contribué à rendre invivable l'endroit où je suis, ça ne sert à rien d'aller ailleurs.
C'est génial.
Voilà, Emmanuel, voilà. Si tu as rendu ou contribué à rendre invivable l'endroit où nous sommes, ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Voilà. Ne t'attends pas à ce qu'on vote pour toi en 2032 et surtout, ne va pas à l'Europe. Merci beaucoup.
Merci Richard et surtout merci à vous chers auditeurs, merci d'être ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, cette matinale qui fonctionne grâce à vous, qui fonctionne uniquement grâce à vos dons.
Grâce à vos dons, des dons que vous pouvez nous faire en ligne si vous le souhaitez en vous rendant sur soutenir.rc.fr ou bien encore en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat. 75-016 Paris, ce qui nous permettra de faire du vrai journalisme, Alexandre.
Oui, exactement, du journalisme total, comme on dit, ça c'est nous. Et puis, ce journalisme total, je précise que voilà, vous pouvez le faire également dans le chat sur YouTube, si jamais vous le souhaitez. Tout de suite, on retrouve Christophe Boutin avec Richard Decaize.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Et nous retrouvons donc Christophe Boutin avec nous au téléphone. Christophe Boutin, nous étions en train de parler effectivement de toutes ces réactions de la gauche, du récit de la gauche sur l'affaire Samuel Paty. D'un autre côté, on a l'impression qu'en face, une sorte de droite LR semble vouloir absolument mettre les bouchées doubles pour compenser, notamment avec cette idée voilà, de diffuser le film partout en France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Beaucoup de gesticulations et pas grand-chose. Que le film soit bien diffusé, c'est quelque chose effectivement sur quoi il faut veiller pour éviter que ça mise sur le boisseau, que ça disparaisse, alors que ce film doit servir réellement de documentation et sa qualité doit être utilisée. Maintenant, la droite LR, déjà, est-ce que les deux mots sont encore compatibles? C'est une question qu'on peut se poser. La droite alliée au centre, LR, effectivement, fait beaucoup de gesticulations depuis longtemps sur des sujets secondaires et n'arrive pas à poser les vraies questions, ou du moins n'arrive pas à demander à ce que les vraies questions soient posées. On nous refait le coup de on va avoir des reportages importants en la matière, mais après tout, dans l'éducation nationale, prenons un autre exemple, si vous voulez, prenons un exemple historique avec la Shoah, avec ce qui s'est passé. On a dans l'éducation nationale diffusé de très nombreux types de documents sur le sujet pour instruire les jeunes générations de ce qui s'était passé et des conséquences atroces de ce qui s'était passé. Cela n'empêche pas actuellement qu'il y ait régulièrement, et qui sont relevés d'ailleurs par l'administration elle-même, des cris plus ou moins antisémites, un refus de certains élèves lorsqu'on leur présente les choses. On ne s'attaque donc pas à la racine, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas, alors bien sûr, toute diffusion est bonne en soi, de ce côté-là, LR est un peu à côté de la plaque. C'est pas en diffusant la bonne parole uniquement que l'on arrive à convaincre, même si, vous me direz, à une époque, diffuser la bonne parole aura suffi à changer la face du monde.
Oui, mais alors ça, évidemment, c'est une bonne parole légèrement différente et que malgré tout, ça a pris un peu de temps. Hein. Il a fallu attendre 3 siècles pour qu'un empereur romain reconnaisse la bonne parole. Donc là, si vous nous promettez que les LR vont revenir au pouvoir dans 3 siècles, bon, pourquoi pas, d'ailleurs, on n'est pas pressé qu'ils reviennent. Sur Samuel Paty, ce qu'il y a de fascinant, c'est bien sûr l'acharnement de la gauche. C'est aussi, d'une certaine manière, l'apathie complète d'une partie de la population qui a décidé que, fondamentalement, tout ça ne la regardait plus. On a l'impression que ce qui agite la classe politique, ce qui cherche désespérément à savoir comment mobiliser les électeurs devenus amorphes et surtout invisibles et surtout inactifs, n'est pas d'aller chercher les ressorts classiques de la lutte contre l'immigration, des dangers de l'islamisme, même avec la Nouvelle-France. Et on ne sait même pas d'ailleurs si la Nouvelle-France réussit à mobiliser tant que ça ceux qui ne votent pas pour elle. Elle réussit à mobiliser viser les nouveaux, dire ceux qui arrivent tout frais sur le marché du vote et qui sont anxieux à l'idée de pouvoir mettre leur bulletin de vote au profit de la gauche. Et donc cette population-là qui a été identifiée, on sait qu'il y a 7,5 millions potentiellement de gens qui sont prêts à voter pour la Nouvelle-France dans les jeunes générations et ceux qui seraient susceptibles de recevoir le droit de vote. Mais qu'est-ce qui véritablement pourrait mobiliser les anciens électeurs, ceux qui, il y a encore 40 ou 50 ans, se rendaient en masse aux urnes? Ça n'a rien à voir avec Samuel Paty, mais on sent que l'abandon est instrumentalisé par LR pour essayer de redorer son blason. Qu'est-ce qui permettrait à LR de retrouver le chemin des urnes?
Écoutez, voilà, première chose, on a changé d'époque. Les gens qui votaient il y a 40, 50 ans, ils sont morts. La nouvelle génération est peut-être moins sensible au vote, peut-être plus sensible au réseau, à une forme de diffusion du savoir ou de diffusion même de la politique, hein, qui ne passe pas nécessairement, ou du moins pas aussi directement, par le vote. Deuxièmement, l'échec des partis politiques est flagrant en France, pas uniquement des LR, hein, des LR bien sûr, mais pas uniquement des LR. Les partis politiques ne sont absolument plus crédibles ou très peu crédibles. Les solutions proposées sont parfois totalement déconnectées de la réalité que vivent les citoyens. Vous évoquiez le tout électrique d'Emmanuel Macron. Il ne lui manque que de proposer le retour de la peine de mort et de la chaise électrique pour enfin réussir à avoir le nombre de kilowatts suffisant. Mais voilà, on est tellement loin des réalités. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'oublions quand même pas qu'il y a une véritable chape de plomb et de censure. C'est-à-dire que certaines opinions sont criminalisées, interdites parfois pénalement, et sinon interdites socialement. Il y a des opinions que vous ne pouvez pas avoir en public, sous peine de mort sociale, sous peine d'être...
Bah, c'est de moins en moins le cas quand même, Christophe Boutin. Dans le sens où aujourd'hui, bon, enfin, sans doute, enfin, à mon avis, il y a quand même une part de psychose légère là-dedans, dans le sens où 40% du pays, plus ou moins, dans ce qu'on appelle l'extrême droite, que ce soit Jordan Bardella, Éric Zemmour, Dupont-Aignan ou autre, donc 40% du pays vote en tout cas pour ce camp-là, et puis même de manière générale, aujourd'hui, les deux tiers des Français finalement pensent qu'il y a un grand remplacement, les deux tiers des Français sont largement opposés à l'immigration, les deux tiers des Français souhaitent l'application de l'intégralité des OQTF. En réalité, c'est une opinion qui est devenue majoritaire. On n'est plus dans une mentalité de résistance, une mentalité obsidionale à ce niveau-là.
Non, mais elle a toujours été majoritaire, cette opinion. Maintenant, il nous échappera pas que le vote se fait à bulletin secret. Ce qui est un élément à prendre en compte en la matière, et que même dans les sondages d'opinion que vous évoquez à très juste titre, qui montrent effectivement qu'une fenêtre d'Overton, comme on dit, s'est déplacée, qui montrent que certaines opinions sont maintenant dissibles alors qu'elles ne l'étaient pas il y a de cela 10 ans, avec un risque d'ailleurs, soit dit en passant, c'est-à-dire de voir cette nouvelle possibilité de tirer des opinions captées par des gens qui ne sont pas du tout aptes à exprimer quoi que ce soit, y compris politiquement. Ça, c'est un autre problème que la droite pourrait rencontrer. Mais voilà, oui, il y a une évolution, mais pour le reste, le choc avec la réalité demeure quand même ténu. Encore une fois, j'ai évoqué tout à l'heure la possibilité d'avoir certains éléments chiffrés qu'on ne peut pas avoir. Vous avez réellement toujours un contrôle de l'opinion.
Comment ça?
Allô?
Oui, non, mais il y a toujours un contrôle
mais,
de l'opinion.
Mais comment ça? Qu'est-ce que vous entendez par contrôle de l'opinion?
Il y a un contrôle de l'opinion parce que, si vous voulez, dans un certain nombre de milieux, vous évoquez le milieu, par exemple, de l'éducation nationale, qui est beaucoup plus varié qu'on ne le dit. Hein. Ça aussi, oui. Il faut sortir des logiques en la matière. Tous les enseignants ne sont pas de gauche, ne portent pas des méphistos. Et voilà. De la même manière, tous les juges ne sont pas non plus au syndicat de la magistrature. Mais il y a de toute manière une sorte de tonalité en la matière. La tonalité globale, c'est la tonalité pas de vague, celle que je décrivais tout à l'heure. Et ce pas de vague, il est au service, effectivement, d'une sorte d'omerta.
Et Christophe Boutin, effectivement, on est toujours surpris parce que lorsqu'on parle entre citoyens, la parole est libre, mais il est évident que cette Macronie finissante qui refuse d'avouer que le 14 mai 2027, tout sera fini, et d'ailleurs peut-être est-ce le symptôme qu'ils savent que ce ne sera pas fini avec les milliers de personnes que Emmanuel Macron a placées à droite et à gauche, on est certain que le macronisme continuera à produire tous ses mauvais effets. Cette Macronie finissante est quand même en train de multiplier les lois liberticides, et donc ce qui nous paraît aujourd'hui être redevenu un espace de parole libre, voilà, Radio Courtoisie existe, les gens s'expriment, il y a effectivement une certaine libération de la parole, mais elle rend hystérique le pouvoir en place qui multiplie la manière de nous museler. Et d'ailleurs, la réaction sur le film de Samuel Paty témoigne bien de cette idée que ceux qui disent le réel doivent être empêchés de parler.
Oui, soit empêchés de parler d'abord, parce que n'oublions pas aussi que le film, c'est une industrie. Que le film, c'est quelque chose qui repose notamment aussi, on l'a vu ces derniers temps, sur un nombre respectable de subventions, et que les subventions semblent parfois être quand même plus ou moins orientées. On peut se féliciter qu'il y ait des films comme celui qui vient de sortir, Samuel Paty. Ce n'est pas non plus la tonalité générale, je dirais, dominante au sein des subventions accordées dans le domaine du cinéma. Donc ça, c'est déjà un premier mode pour réussir à travestir, si je puis dire, la réalité. Le deuxième, encore une fois, le pénal, on pense tout de suite à la sanction pénale. C'est-à-dire qu'on pense au fait que certaines opinions sont criminalisées et qu'on pourra aller, on pourrait se retrouver, et on se retrouve parfois d'ailleurs condamné. Mais en dehors de ça, je crois que le poids sociétal est beaucoup plus important. Vous savez, Tocqueville disait dans La démocratie en Amérique, il évoquait justement ce poids sociétal. Il disait qu'il n'y a pas de pays où il y a moins de liberté de parole qu'aux USA quand il les visitait. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu des lois qui sont liberticides ? Non, dit-il, parce qu'il y a le poids de l'opinion. Il y a un cercle invisible, c'est la formule qu'il emploie, hein, le cercle invisible autour de la pensée. À l'intérieur du cercle, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas sortir du cercle. Mmh. Et vous ne pouvez pas sortir du cercle pourquoi ? Non pas parce que vous serez sanctionné pénalement, mais parce que vous serez rejeté du corps social.
Et il est certain qu'aujourd'hui, voilà, un certain nombre de paroles sont inadmissibles. Il suffit de voir la manière dont Yael Braun-Pivet criminalise ceci ou cela, déteste ceci ou cela, sans se poser la question de la cohérence réelle des oukases qu'elle prononce.
Oui, mais d'un autre côté, pardon, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'en réalité, aujourd'hui, il soit devenu si difficile dans la pratique de quelque part d'assumer des opinions qui seraient pas celles de la gauche ou pas celles du centre. C'est-à-dire que dans certains milieux spécifiques, notamment dans l'administration ou dans l'enseignement, ça semble particulièrement être le cas. Même on parlait de l'audiovisuel public à cette antenne ces dernières semaines, je pense qu'il y a également cette chape dans ces domaines-là. En revanche, dans ce qu'on appelle évidemment nous le pays réel, on a l'impression que d'une certaine façon, il y a sans doute effectivement une forme de liberté qui peut tout à fait s'exercer, et je suis pas sûr qu'on soit dans la même situation qu'il y a 10 ans, par exemple, où c'était extrêmement difficile de dire qu'on était ne serait-ce qu'opposé à l'immigration, de dire que on pensait qu'il y avait un problème avec l'islam. En l'occurrence, depuis ces 10 dernières années, il y a quand même eu une ouverture de la parole assez formidable, et encore une fois, une fenêtre d'Overton qui s'est agrandie, qui fait que c'est pas seulement à ses amis qu'on peut donner son opinion, mais même dans le cadre du travail, ça semble pas, sans doute que c'est plus si difficile que ça l'était.
Franchement, moi, j'ai commencé à travailler pour Radio Courtoisie il y a 1 an et demi, et merci beaucoup de me permettre de vous parler à cœur ouvert, Alexandre. Mais voilà, pendant les 30 ans qui ont précédé, dans mon agence de communication
à Paris,
on n'était pas dans la liberté l'absolue, ni dans les dîners en ville, où régulièrement on demande aux gens de droite de modérer leurs opinions pour ne pas fâcher ceux qui sont à table avec les autres.
À Paris.
Mais non, mais même en province, j'ai même dans la Sarthe.
Ah, en même temps, la Sarthe. Et Christophe Boutin ?
Ouais, bah écoutez, même dans la Normandie profonde. Je crois que les deux ont raison. Est-ce que la fenêtre d'Overton s'est déplacée ? Oui. Est-ce qu'il y a des médias maintenant qui peuvent employer certaines expressions et qui peuvent décrire une part de la réalité ? Tout à fait. Est-ce que même parfois, il est permis de glisser quelques mots avec des inconnus quand on commence à prendre langue, qu'on ne sait pas exactement qui est qui et qu'on teste un petit peu en quelque sorte sur les grandes questions politiques du moment, qu'on teste notre interlocuteur, la réponse est oui aussi. Mais disons-le, on reste quand même très prudent dans ce cas-là. On n'a pas envie de choquer, on n'a pas envie de se fâcher avec son boucher, avec son boulanger, avec les gens qu'on peut rencontrer, je dirais, au quotidien. Vous me direz, c'est pas forcément avec eux qu'on va parler de politique, mais si, dans la France profonde, oui. C'est avec eux qu'on parle de politique. C'est ça, c'est cette politique de proximité, c'est le dialogue qu'on a avec son voisin, c'est le dialogue qu'on a avec les gens que l'on croise au quotidien. Et les gens qu'on croise au quotidien, c'est pas uniquement des grands intellectuels, c'est vous, moi, qui avons envie de débattre.
Ah bah on voit que vous nous placez pas dans la catégorie des grands intellectuels, Christophe Boutin, merci.
Il plaisante. Non,
je vous rassure, je ne place pas plus dans la catégorie des grands intellectuels de ce côté-là. Et c'est une catégorie qui fait toujours un petit peu peur quand on regarde comment elle est composée. Donc, satisfons-nous, je crois, de ne pas en faire partie. Non, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Cette réalité du quotidien, cette réalité du dialogue du quotidien, je veux bien qu'il y ait une petite ouverture qui se fasse. Mais dans tout ce qui est milieu professionnel, que ce soit les milieux professionnels d'ailleurs publics ou privés, hein, encore une fois, ce n'est pas du tout si évident de pouvoir affirmer certaines idées. Et on est parfois d'ailleurs surpris quand, au bout d'un moment, se connaissant un peu mieux, on arrive à échanger sur un sujet, de voir que on pensait un peu la même chose dans une réalité, alors qu'on s'est tu pendant parfois des années, oui. En ne les évoquant pas ensemble, chacun craignant en quelque sorte que l'autre, voilà. Et ça, c'est ce poids social, vous voyez, que décrit Tocqueville et que j'évoquais, c'est uniquement ce poids social. Là, il n'y a pas de sanction étatique.
Et ce poids social, on le voit, hein, mais pour revenir au début de cet entretien, qui était crucial dans toute l'affaire de Samuel Paty. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Christophe Boutin, ce matin. Et on vous dit à bientôt, très vite, ici, sur Ligne Droite.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Dans un instant, nous recevrons Édouard Husson pour parler de l'affaire Benguvir. Juste avant cela, Gabriel Fouquet. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clausel.
Le 44e pèlerinage de Chartres s'est achevé hier avec plus de 20 000 participants majoritairement jeunes réunis à la cathédrale Notre-Dame de Chartres après 3 jours de marche sous la chaleur. La messe de clôture a été célébrée par le cardinal Raymond Burke, une démonstration éclatante qui montre que la jeunesse catholique française est bien vivante en France. Et à Cannes, le signataire de la tribune contre Canal+ et Vincent Bolloré, Jean-Pascal Zadi, a finalement demandé le retrait de son nom. Selon le JDD, le réalisateur de Tout simplement noir se serait alors souvenu que Canal+ avait largement soutenu ses projets et aurait appelé pour s'excuser, expliquant avoir mal lu le texte. Même la Macronie ment mieux que lui. Et la Fondation Droits d'Enfance alerte. 40 953 disparitions de mineurs ont été signalées en France en 2025, soit 112 par jour et une hausse de 6,4% sur un an. Si les fugues restent majoritaires, les disparitions jugées inquiétantes progressent fortement, notamment celles d'enfants de moins de 15 ans. Et nous célébrons ce 26 mai Saint-Philippe Néri, Saint-Béranger et Sainte-Anne-Marie Paredes.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et tout de suite, nous retrouvons donc Gabriel Fouquet pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour Gabriel.
Bonjour Alexandre.
Alors, dites-nous tout.
Mais si je vous dis justement plage de sable blanc, eau turquoise, collier de coquillages et fleurs de tiare, vous me répondez ?
Bah Tahiti.
Eh bien raté, Chartres.
Chartres, rapport à la cathédrale ?
Tout à fait. Nous laissons le pèlerinage, nous nous intéressons au musée des Beaux-Arts. Jusqu'au 2 août prochain, embarquez à bord de l'Astrolabe et de la Zélée pour l'exposition Fidji 1838 face à face. Un rendez-vous exceptionnel sur les traces de l'expédition menée par Jules Dumont-Durville entre 1837 et 1840 en Océanie et en Antarctique. Car parmi les 48 étapes, les îles Fidji.
Et pourquoi à Chartres, on attend plutôt ce genre d'exposition au musée du Quai Branly, non ?
Mais le Quai Branly est bien de la partie, mais chose extraordinaire, c'est lui qui s'est déplacé et pas l'inverse. Pourquoi ? Parce que le musée des Beaux-Arts de Chartres possède l'une des plus vastes collections d'objets du Pacifique, le fonds Louis-Joseph Bouge. Branly court après depuis des années sans succès. On trouve des lances, des têtes de flèches, des bijoux, toute l'Océanie dans des cartons, y compris des cartons à dessin. Et parmi ces dessins, ceux d'Ernest Goupil, dessinateur officiel de l'expédition scientifique du Mont-Durville, l'une des deux faces de cette exposition face à face. Car il ne s'agit pas d'illustrer, mais de dialoguer. Ou plutôt d'innerver, pour reprendre l'idée de la scénographie pensée par Grégoire Allais, conservateur du musée et co-commissaire de l'exposition. La salle d'exposition présente une colonne vertébrale, nous dit-il, d'objets ethnographiques fidjiens. l'autre face, la face autochtone. Et nous slalomons autour de cette colonne, guidée par les dessins de Goodipil, sur les feuilles, des pirogues, des portraits et des paysages, et sur les tables, des perruques, des armes et des outils. Parmi les images de Goupil, l'une d'entre elles nous montre un village fidjien ouvert sur la mer, façon Vendredi ou La Vie Sauvage. Et à l'arrière-plan, l'astrolabe de Dumont-Durville croise déjà Pavillon au Vent. Les Fidji s'apprêtent ici à rencontrer l'Occident. Nous sommes en 1838 et dès 1874, ils intégreront l'Empire britannique.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère au bout du monde, Dumont-Durville ?
Une corvette, Alexandre, pas une galère. Et Dumont-Durville poursuivait l'œuvre de Louis de Fraissinet et de Jean-François de Galou, le célèbre comte de la Pérouse, qui préoccupait Louis XVI jusque sur l'échafaud. Ce marin explorateur a un beau palmarès. En 1819, il participe à la découverte de la Vénus de Milo, rien que ça. En 1826, il découvre les lieux du naufrage de Monsieur de la Pérouse à Vanikoro, enfin des nouvelles. Et en 1840, il coiffe les Anglais au poteau en Antarctique, pour le plus grand bonheur de Richard XVI, se payant le luxe de baptiser la terre Adélie, Adélie, en hommage à sa femme Adèle, et en petit bout de l'océan austral, mère du mont d'Urville, en hommage à lui-même. Mmh. Je ne vais pas vous décrire toutes les œuvres de cette exposition, la radio se prête mal à l'inventaire d'objets que nous ne représentons pas facilement. Pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus, il existe un catalogue magnifique que vous pourrez vous procurer sur place ou en librairie. Je veux davantage insister sur l'aspect original de l'exposition chartraine. Grâce à Dumont-Durville, nous connaissons les Fidji. Car rappelons-le, en 1840, le rugby n'existait pas encore. J'ai bien dit « connaissons », pas « découvrons » ou « annexons » ou même « colonisons ». J'ai bien dit « connaissons » car le face à face, chartrain s'attache à restituer l'idée de rencontre entre deux cultures. Au fil du parcours, la colonne vertébrale chuchote des histoires que les dessins fixent et inversement. Nous rencontrons véritablement les Fidjiens, comme eux rencontrèrent Goupil et les Français, en échangeant. Les Fidji sont une terre de tradition orale. À Chartres, la place accordée au chant, au vocabulaire et à la poésie fidjienne le montre bien. Le parcours commence par la langue et s'achève par la langue, avec le talanoa, un joli mot qui signifie « récit partagé », et les poèmes de Samson Verma, artiste fidjien également commissaire de l'exposition.
Une excursion chartraine qui sonne comme une invitation au voyage.
Et bien, acceptez cette invitation, chers auditeurs, car il s'agit d'un moment d'une rare qualité qui met à la fois en valeur son sujet, mais aussi l'ambition d'un musée de Provence mené par un jeune conservateur passionné, au regard aussi clair que ses idées, et je le remercie pour le temps qu'il m'a accordé. La preuve que le monde culturel, souvent critiqué à juste titre sur nos antennes, peut faire des merveilles quand il accepte de partager. Faire acte de talanoa, en somme, la leçon fidjienne, de quoi inspirer voyageurs et politiques. Et franchement, les Fidji à une heure de Paris, qui dirait non ?
C'est toujours un plaisir de voyager avec vous, Gabriel Fouquet, à Chartres ou aux Fidji. Écoutez, et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine. Des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Husson. Édouard Husson, bonjour. Vous êtes historien, professeur des universités. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire, l'affaire Benguvir, comme on va pas tarder effectivement à l'appeler. Rappel des faits rapides, mais donc une flottille pour Gaza, composée en grande majorité effectivement d'Européens, arrive en Israël. Et puis là, on voit une vidéo, scène absolument choquante, où le ministre Itamar Benguvir, ça donne à une forme d'humiliation et montre avec réjouissance les violences qui sont réalisées à l'encontre de ces militants pro-palestiniens. Effectivement, ce qu'on peut observer, Édouard Husson, dans toute cette affaire, c'est que la réaction occidentale a été pratiquement unanime.
Oui, tout à fait. Merci de m'inviter pour parler de ce sujet. La réaction a été unanime. Alors ensuite, on va sans doute émettre des réserves, parce que il y a deux questions quand même qui se posent. C'est pourquoi isoler Monsieur Benguvir dans le gouvernement israélien, il en est certes un des éléments les plus radicaux, mais il a été critiqué par le Premier ministre israélien, mais il n'a pas été exclu du gouvernement, et en fait, il fait partie de ce gouvernement comme ministre de la Sécurité nationale. La deuxième réserve, effectivement, qu'on peut émettre, c'est de s'étonner que les gouvernements occidentaux soient émus parce qu'il s'agit d'occidentaux qui sont maltraités. Mais finalement, ce que M. Ben-Gvir a commencé à faire sur les Occidentaux, c'est ce qu'il prône contre les Palestiniens depuis des mois et en fait des années.
Et alors, est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur qui est Itamar Ben-Gvir, parce que nos auditeurs sans doute ont entendu son nom récemment, peut-être que tous ne le connaissent pas.
Oui, c'est un homme politique israélien qui est né à la fin des années 70, qui a été comme adolescent très très marqué par la première intifada, la première grande révolte de jets de pierres de la jeunesse palestinienne. Ça l'a radicalisé, alors qu'il venait d'une famille plutôt modérée et peu politique. Et il est devenu à ce moment-là un des militants de la droite la plus dure en Israël, celle qui, depuis les années 90, milite pour ce qu'on appelle le projet de Grand Israël. Et en particulier, Ben-Gvir fait partie de ces jeunes qui ont critiqué énormément le Premier ministre Yitzhak Rabin après les accords d'Oslo et qui ont créé une atmosphère dans laquelle s'est déroulé l'assassinat d'Yitzhak Rabin à la fin des années 90. Donc c'est quelqu'un qui a fait sa carrière, et je ne mets pas en doute sa sincérité sur la thèse du Grand Israël, une lecture maximaliste et littérale de la Bible qui consiste à vouloir faire d'Israël un État allant en gros de l'Euphrate au Nil. Il appartient à un mouvement qui a été condamné même par le gouvernement israélien, l'État d'Israël, pardon, qui s'appelle le mouvement kahaniste. On avait donc été d'autant plus étonnés lorsque Ben-Gvir avait été inclus par Benjamin Netanyahou dans son gouvernement à la fin de l'année 2022. Mais simplement, il faut regarder les choses en face. Ça nous ramène à la question que vous posiez en commençant. On a une radicalisation d'une partie de la société israélienne qui devient, le mot d'intransigeant ne suffit plus. Enfin, Monsieur Ben-Gvir, il est l'une des voix les plus violentes concernant le génocide de Gaza, mais ça fait longtemps qu'il était connu pour sa brutalité de propos vis-à-vis des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Il habite lui-même dans une colonie illégale en Cisjordanie.
Oui. Et alors, justement, rapidement aussi, un autre, avant de rentrer dans le cœur du sujet peut-être, mais un autre personnage qui aussi, on va dire, tire le Likoud, donc le parti de Benjamin Netanyahou, vers la droite, qui a son propre parti politique lui aussi, c'est Bezalel Smotrich.
Oui, c'est l'autre figure, effectivement, qui est souvent dans les médias occidentaux. Et si vous voulez, on a une lecture un peu facile de ce qui se passe actuellement en Israël. En gros, il y a le Likoud, et puis le Likoud a dû s'allier avec des partis extrémistes, et ces partis extrémistes, finalement, ce sont ceux qui sont toujours mis en avant. Et comme aussi bien Smotrich que Ben-Gvir sont extrêmement friands d'apparitions médiatiques, Ils veulent peser sur la politique de Benjamin Netanyahou pour la radicaliser encore. Et donc, ce sont surtout d'eux qu'on parle. Mais n'oublions pas qu'il y a une coalition au pouvoir. N'oublions pas non plus que quand on fait des sondages, on a plus de deux tiers des Israéliens qui approuvent sans réserve la politique qui a été menée à Gaza ou celle qui est menée en Cisjordanie contre les Palestiniens.
On a l'impression que, pardon, ce que vous voulez dire par là, Edouard Husson, si je dois filer un petit peu votre propos, c'est que certes, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich sont des personnalités outrancières et extrémistes au dernier degré dans leurs propos, mais que finalement, le fait qu'ils soient maintenus à leur poste, le fait qu'ils restent là, montre qu'il faut mettre tout le gouvernement israélien dans le même sac.
Oui, bah, si vous voulez, c'est une question d'abord d'honnêteté intellectuelle. Israël même se décrit comme une démocratie. Et on utilise souvent la formule la plus grande démocratie ou la seule du Moyen-Orient. Bon, c'est sympathique pour les Libanais au passage, mais regardons ça. Donc à ce moment-là, si on est en régime démocratique, on a la question d'une majorité. Et on a la question de la responsabilité politique.
Qu'il y a justement 121 députés à la Knesset et que Benjamin Netanyahu et sa coalition en ont justement 61, si je ne m'abuse.
Voilà. Et donc, il y a une majorité. Je rappelle qu'il est devenu de plus en plus difficile dans le système politique israélien d'arriver à une majorité parce que c'est un système d'élection à la proportionnelle et qu'il y a une fragmentation du paysage politique. Autrefois, on avait deux grands partis, hein, le Likoud et les travaillistes. Et puis petit à petit, vous avez des partis radicaux, particuliers d'inspiration religieuse, qui se sont imposés comme des faiseurs de coalition.
Ouais.
Et donc, on est dans cette situation. Et effectivement, mon propos n'est pas de desservir des bons points ou des mauvais points en matière d'extrémisme. Il est simplement de constater que l'un des facteurs qui permet une guerre perpétuelle et qui n'a pas l'air de s'arrêter, qui a permis de relancer plusieurs fois les massacres de Gaza, qui permet de continuer le nettoyage ethnique de la Cisjordanie, qui permet de justifier les bombardements du Liban qui nous touche particulièrement.
On va revenir dans un instant dessus.
Et qui permet aussi au gouvernement israélien de peser dans les négociations actuelles avec l'Iran pour savoir si on arrête la guerre ou pas, eh bien, c'est précisément l'existence de cette majorité avec des individus, comme vous l'avez souligné, qui peuvent être considérés comme ultra, comme exagérément violents en parole et en action, mais qui, de fait, permettent à cette majorité d'exister.
Mais alors, dans le sens inverse, Edouard Husson, mais d'un autre côté, je dois vous rappeler quand même que Benjamin Netanyahu a directement condamné les actes et la vidéo donc d'Itamar Ben-Gvir en expliquant que lui ne soutenait pas du tout ça et que effectivement le gouvernement israélien condamnait un acte isolé d'Itamar Ben-Gvir.
Oui, mais il ne l'a pas forcé à la démission. Je veux dire, quel est le poids de la parole d'un premier ministre qui dit qu'il désapprouve
On se croirait en
si
France.
Vous voulez. Oui, c'est ça. Non, mais je rappelle que en France aussi, il y avait une autre norme à une certaine époque. Je rappelle la célèbre formule de Jean-Pierre Chevènement quand on lui demandait pourquoi il avait démissionné au moment de la guerre d'Irak. Il disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne.
Oui.
Bon. Et donc, à l'inverse, on peut dire que si Benjamin Netanyahu n'est pas d'accord avec Ben-Gvir, eh ben, il doit le forcer à démissionner du gouvernement ou le renvoyer, tout simplement. Et en même temps, si Netanyahu fait ça, il sait très bien qu'il faudra de nouvelles élections et il n'est pas sûr du résultat, en tout cas le concernant personnellement. Donc, si vous voulez, je vois bien l'objection qu'on peut faire, mais c'est un petit peu comme Monsieur Barrot en France annonçant solennellement que Monsieur Ben-Gvir n'aura plus le droit de pénétrer sur le territoire français. Mais enfin, on rappelle qu'il y a quand même un mandat de la Cour pénale internationale qui condamne Benjamin Netanyahu pour les crimes de guerre commis à Gaza. En tout cas, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Eh bien, ça n'a pas empêché que la France autorise le survol du territoire français par l'avion de Benjamin Netanyahu quand il allait aux États-Unis. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Soit on applique le droit international complètement, soit on ne l'applique pas. C'est ça que je voulais dire.
Oui. Mais et alors, d'une certaine façon, on a l'impression que au moins, on va dire, ça commence à bouger au ministère des relations, enfin des affaires extérieures, ce qui n'était pas encore, ce qui était toujours pas le cas. D'une autre façon, ce qui est assez fascinant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes en France et même à droite qui explique que justement on peut quelque part soutenir Benjamin Netanyahou tout en condamnant les outrances, les excès qui sont réalisés sur place. On comprend que vous n'y croyez pas. La question que je me pose, c'est est-ce que des personnalités justement comme Ben-Gvir ou Smotrich sont responsables selon vous de ce qui se passe directement responsables, disons, de ce qui se passe à Gaza ou de ce qui se passe en Cisjordanie avant de parler de la question libanaise?
Alors, ils sont co-responsables, mais si vous voulez, le premier responsable, c'est le premier ministre israélien, ou d'une certaine manière, on peut dire le premier responsable, c'est le peuple israélien qui dans lequel il y a des voix indéniablement courageuses pour condamner les violences commises et les atteintes au droit international, mais que ce sont des voix isolées et minoritaires. Et donc, je crois, si vous voulez, qu'il y a deux choses à comprendre. C'est que la première, c'est ce que vous dites, c'est que certains trouvent pratique de pouvoir condamner Ben-Gvir et Smotrich en disant, mais ça, c'est des excès, mais sur le fond, malgré tout, le combat du gouvernement israélien n'est pas répréhensible. Donc ça, c'est une chose. Alors, de l'autre, il faut bien souligner que, au-delà de la réprobation des gouvernements dont nous parlons tout à l'heure, vous avez dans l'opinion internationale une réaction de plus en plus indignée, hostile, et en fait, elle ne fait pas de distinction entre Ben-Gvir et son gouvernement. Elle dit Ben-Gvir n'est que la pointe avancée d'un gouvernement qui non seulement ne respecte plus du tout le droit international, mais qui en plus mène des guerres absolument illégitimes.
Ouais. Et alors justement sur ces guerres, on sent quand même une empreinte qui commence à s'approcher d'une empreinte religieuse et presque messianique d'une certaine façon, dans la manière dont Israël mène ses guerres. Je pense notamment à la guerre contre l'Iran, mais aussi contre le Liban, où désormais, eh bien, il y a une partie du territoire libanais qui est occupée par Israël, et on sent que c'est pas prêt de s'arrêter.
Alors, oui, vous avez raison. C'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure à propos de M. Ben-Gvir. Il fait partie de cette aile de la vie politique israélienne qui veut reconstruire le temple de Jérusalem, qui rêve de chasser les musulmans de l'esplanade des mosquées. Et il s'est rendu lui-même sur l'esplanade des mosquées pour y affirmer une présence juive à venir. Alors ça, c'est un sujet qui est mal connu, qui est pas bien compris, mais il y a dans une partie de cette frange radicale qui soutient le gouvernement israélien, il y a un mouvement qui souhaite la reconstruction du temple de Jérusalem. Oui. Donc c'est quelque chose qui est intimement lié au grand Israël, et c'est quelque chose à prendre au sérieux, puisque vous avez déjà tout est en train d'être préparé pour la reprise des sacrifices sur le mont du temple, comme l'appellent ces gens. Alors vous avez raison de souligner que cette composante messianique est très importante. On a souvent critiqué le messianisme iranien ou l'islamisme, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le conflit actuel du Proche et du Moyen-Orient, vous avez trois messianismes. Vous avez un messianisme musulman, vous avez, avec différentes facettes, vous avez un messianisme chrétien-sioniste américain, et on va dire évangélique américain, même plus largement, et qui est derrière les guerres d'Israël, qui les soutient. Et puis, vous avez ce messianisme dont nous parlons et dont la version radicale est incarnée par quelqu'un comme Monsieur Ben-Gvir. Et ce qui choque de plus en plus au Liban, c'est qu'on s'aperçoit effectivement que cette guerre qui avait commencé normalement contre le Hezbollah, c'est-à-dire contre le schisme, on va dire, en fait, elle vise maintenant tous azimuts, et on a eu ces épisodes qui ont là aussi indigné.
Rappelons rapidement, donc effectivement, un crucifix abattu par un soldat de Tzal, une vierge à laquelle un autre soldat de Tzal fait fumer une cigarette, ou alors même, ce qui se passe, c'est que même à Jérusalem, très récemment, une religieuse qui se fait très brutalement frapper en pleine rue, donc par, je crois, effectivement un extrémiste religieux aussi israélien. D'une certaine façon, on sent que ce qui se passe, c'est que, on va dire que ce qu'on voit au niveau politique avec justement Smotrich et Ben-Gvir qui quelque part tirent vers la droite, en tout cas vers une sorte de sionisme religieux, le gouvernement de Netanyahou se passe également à l'intérieur de la société, à l'intérieur de Tzal.
Oui. Si vous voulez, la société israélienne est en crise, et elle est en crise profonde. C'est une crise politique, on le voit, mais c'est aussi une crise morale. On a des témoignages. Moi, mes sources, si vous voulez, pour comprendre ce qui se passe en Israël, j'en profite pour le dire à ceux qui nous écoutent, c'est un journal israélien qui s'appelle Haaretz, qui beaucoup plus intéressant à lire qu'un certain nombre de médias français qui manquent de recul critique sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu, alors que Haaretz, le journal israélien, n'hésite pas à donner des points de vue divergents. Et on apprend des choses assez étonnantes. Alors, il existe une version anglaise et une version française de Haaretz. Et on apprend qu'il y a au moins 10 000 soldats israéliens qui sont passés par Gaza et qui sont l'objet de traitements psychiatriques parce que ils ont finalement très mal vécu cette guerre de massacre et d'extermination. On a beaucoup d'indices d'une crise morale de la société israélienne, et là je décris ça avec une forme d'empathie, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'une société puisse se permettre de bafouer le droit international et de commettre des crimes de guerre impunément. Ça, il y a toujours un effet. Il y a toujours un effet boomerang.
Ouais, et puis sans parler effectivement simplement de la crise morale qui se passe dans ce qu'ils appellent la Judée-Samarie ou la Cisjordanie, comme on veut, où effectivement on voit, mais d'ailleurs même les hauts responsables de l'armée le disent, hein, mais des colons extrémistes qui désormais agissent donc en tant que civils et s'emparent de territoires de terres palestiniennes par la force. On sent de plus en plus de brutalité là-dedans, simplement. Et Laurie Soult, il nous reste uniquement 2 minutes, donc j'aurais peut-être une dernière question pour vous. On a l'impression qu'aujourd'hui, donc, alors que les élections approchent quand même en Israël, on a l'impression que Benjamin Netanyahou est quand même en difficulté, et que désormais le pays, le paysage politique du moins se divise en deux parties. D'un côté, effectivement, cette partie qui serait plus messianique, plus religieuse, et évidemment plus, quelque part, monarchique presque dans sa forme, et d'un autre côté, une gauche qui serait quelque part toujours attachée à une forme de démocratie libérale, et qui effectivement serait l'opposition à Netanyahou.
Oui, alors je suis un peu sceptique. Ça, je pense, si vous voulez, l'opposition à Netanyahou, elle, sur le fond, elle n'est pas critique à 100% de la politique étrangère et de la politique militaire israélienne. Et je ne crois pas qu'on aurait immédiatement un changement très 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 marqué. Il n'empêche que malgré tout, je pense que psychologiquement, il serait absolument essentiel que Benjamin Netanyahou quitte le pouvoir, puisqu'il est le grand responsable. Et je rappelle qu'il est sur les 30 dernières années, il a dû être Premier ministre pendant 25 ans.
Oui. Ouais, bien sûr. Et justement, ce qui, oui, donc quelque part, ce serait plus de l'anti-Netanyahou qu'un contre-projet, quelque part, c'est ce que vous dites.
Oui, je pense, parce que je pense que Netanyahou est de plus en plus détesté dans une partie de la société israélienne. Mmh. Il y a tous ceux qui manifestaient aussi contre lui à cause de sa réforme de la justice avant la guerre de Gaza.
Bien sûr.
Et puis, il y a ceux qui souhaitent le voir passer en justice, lui, pour les affaires de corruption dont il est accusé.
Très bien. Eh ben, écoutez, on suivra en tout cas ce sujet avec intérêt. Merci, Edouard Husson, de nous avoir parlé un petit peu des arcanes de cette politique israélienne. C'est pas toujours effectivement un sujet évident. Merci de l'avoir décrypté pour nous et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.